Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scouse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'after comme tous les soirs, du lundi au dimanche jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission de radio de France en direct, 7 jours sur 7. L'after de l'élégance, oui on l'a décrété. C'est le vendredi soir, c'est le samedi soir, il n'était pas là hier, mais il est de retour aujourd'hui. Salut Jonathan McCarthy.
Salut les gars.
Heureux de te retrouver, Ludovic Obraniak à mes côtés également.
Salut tout le monde.
Qui a travaillé pour tous les médias du groupe. RMC, BFM TV, RMC Sport News, parce que monsieur a été invité pour parler de Neymar. Et il va en reparler dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. La victoire du PSG, 1-0. Les sifflets, mais le sauveur Neymar a encore frappé. À 3 jours de la Ligue des Champions, le Tour d'Europe, les gros matchs, notamment le Real vainqueur. Le Barça, c'est en cours de 2-1 pour les Barcelonais face à Valence. Et puis, Fiorentina Juve, notamment le Napoli qui s'est imposé également. On sera avec Simone Rovera, Paulo Breitner pour Leipzig Bayern et le carton de Borussia Dortmund de Lucien Favre, impressionnant encore une fois. On n'oublie pas l'Angleterre avec la défaite incroyable de Manchester City, 3-2 sur le terrain de Norwich. On sera avec Julien Laurence. C'est parti messieurs, l'essentiel comme tous les soirs dans l'after, c'est les 3 points.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Souvent l'essentiel c'est le plus important.
Ludo, tes 3 points.
Mes 3 points, bah forcément je vais parler de Neymar. J'hésite entre, en fait, à la fin du match, j'ai presque crié au génie. Et puis la suite me fait presque penser à une réaction presque imbécile de sa part. C'est-à-dire que c'est un garçon, un enfant, qui joue souvent avec le feu, mais qui se brûle vraiment jamais au troisième degré, quoi. Il c'est un chat, le type. Il retombe toujours sur ses pattes. Il y avait une occasion rêvée de pouvoir ce but là, ce signe du destin qui était d'être sur le chemin de la rédemption. Et je trouve qu'il gâche avec ce qu'il raconte derrière, où justement il avait fait la moitié du job, quoi. Je veux dire, tu faisais ça, amende honorable plus le but, t'avais déjà faute à moitié pardonnée. Et il saisit pas la balle au bon. Je trouve ça.
Tu n'auras qu'un
dommage.
Point. Trop long.
Non.
Parce si, que, non, t'as
allez,
terminé.
Fais-moi ça un petit peu de rab.
Est-ce qu'en 6 secondes
j'ai fait BFM TV, tu peux me donner un peu de rab.
6 secondes, 2 points.
Le père, c'est un cancer pour le football.
Et pour son fils, peut-être.
Et Bordeaux, tumultueux en coulisses, mais crédible de plus en plus sur le terrain.
Avec Paulo Souza. Les 3 points, Jonathan McCarthy.
Bon, premier point, c'est sur le Paris Saint-Germain. Moi, je vais pas forcément revenir sur Neymar, mais sur la prestation et les choix de Thomas Tuchel. Je pense que ce PSG-là m'a manqué d'imagination. Et on parlera des choix tactiques de Thomas Tuchel qui sont, pour ma part, très discutables. Le deuxième point, c'est Bordeaux. Effectivement, je vous rejoins. Bordeaux qui est de plus en plus crédible sur le terrain. J'ai aimé cette défense à 4. J'ai aimé ce que Souza a mis en place ce soir, donc Bordeaux, très bien. Et le troisième point, écoute, j'ai envie de le faire, j'ai hésité longuement, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai pas eu le temps d'y revenir sur la blessure de Florent Thauvin, et c'est un vrai énorme, énorme coup dur pour l'Olympique de Marseille, et c'est là où, encore une fois, une blessure majeure, et tu vois toutes les limites de l'effectif et de la construction de l'effectif. Et quatrième point bis ce soir,
on découvrira qui t'a autorisé
pour Tyson Fury contre Waylin et sur RMC Sport 4 pour Justin Gaethje, Cowboy Cerrone, et retrouvez-nous sur le podcast RMC.
Stop, arrêtez-moi, coupez le micro après l'after basket hier et l'after volé de Ludo. Voici l'after sport de combat de Jonathan. Il y a beaucoup de choses à raconter, messieurs, faut qu'on soit efficace. Tout de suite, je rappelle les scores de la 5e journée de Ligue 1. Le PSG a donc battu Strasbourg 1-0, Neymar 0-0 entre Dijon et Nîmes. Bordeaux s'impose pour la première fois de la saison à domicile. C'est que le deuxième match des Girondins, au Matmut, 2-0. Brillant.
Lui, il n'a pas le chrono, lui.
Jimmy Brillant. Ouais. Et c'est pas les 3 points. Et Nicolas Depréville, brillant, on va en parler également parce que ce gars-là, je crois qu'il a 96 buts, meilleur buteur français en activité. Il y a Nicolas Depréville qui progresse également, on en parlera, qui commence doucement à enfin, 2 ans après son arrivée, s'intégrer à Bordeaux. Montpellier-Nice, 2-1 pour Montpellier. Delors Mollet contre l'ouverture du score de Tamézé pour le GC Nice, 0-0 entre Brest et Rennes. Il y a du rugby également à Chaban-Delmas, l'Union Bordeaux-Bègles face au Stade français. On y va avec toi, Dorian Malvezin.
Allez, on arrive à l'heure de jeu ici. 31-3 pour l'UBB. Quatrième essai marqué par Yann Lesgourc suite à une action de Nantes du coin qui prend l'intervalle. Il donne en Schistera à Blair Connor. Bien fixé, il a bien fixé l'arrière. Qui refait une passe à Lesgourc qui a aplati entre les perches. Il a été transformé par Mathieu Jalibert. Le stade français est catastrophique ce soir. 60e minute de jeu, 31-3 pour l'UBB.
Le classement de Ligue 1 avant les matchs de demain. Le PSG en tête, seul en tête. 12 points. Rennes, deuxième avec 10 points. Lille, troisième, 9 points comme Nice et Angers. Lyon, sixième avec 8 points. Bordeaux, septième, 8 points. Reims, Nantes, Montpellier, Marseille, Toulouse à 7 points, Brest 6 points, Nîmes 5 points, Amiens, Saint-Etienne, Metz 4 points, Strasbourg 3 points, attention Strasbourg, hein. Monaco 2 points et Dijon dernier, 1 point, 1 but marqué seulement cette saison.
Très inquiétant Dijon.
Très inquiétant, on a le sentiment qu'ils y vont tout droit. C'est parti, le 32-7 est ouvert bien sûr, l'hashtag RMC Live, vos appels, vos commentaires également, vos questions à Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. Le premier appel au 32-16 pour Montpellier-Nice avec Ludovic, supporter Montpellier. Hein. Salut Ludovic.
Oui, bonsoir l'after, ça va?
Salut Ludovic. Ouais, ça va bien. Est-ce que t'es élégant ou pas?
On a renversé la situation ce soir.
Tu sais que si t'es pas élégant, tu viens pas dans l'after du samedi soir. Hein.
Ah, pourquoi? Dites-moi.
T'es en chemise ou pas? Parce qu'on est tous très classe, tu sais.
Ah non, je regarde pas pour le coup. En plus, désolé si j'étais un petit peu distrait ce soir. J'étais au troisième tour de la Coupe de France. On est loin des Neymar et du parc, mais bon, voilà, c'est sympa le foot.
C'est le football vrai.
Voilà, c'est ça.
Alors Ludovic, cette victoire de Montpellier qui fait du bien. Hein. Montpellier est stagné depuis deux journées.
Ouais, depuis... De quoi on stagne depuis deux journées? Ben non, depuis... On a eu la défaite à Nantes, mais après on a gagné contre Lyon.
Contre Lyon, c'est vrai. Journées, ça. Ouais.
Bon, c'est vrai que sur les retours après les trêves internationales, c'est toujours important de pouvoir bien revenir. Surtout en plus quand t'as le mental pour quand t'es mené. Là, on a eu la chance d'égaliser et la grinta de Delors, hein, toujours pareil avant la mi-temps. Et puis après, ben Flo Mollet, pour le coup là, c'est que son troisième match. Il était revenu contre Lyon. Donc franchement, super super heureux de son match ce soir.
Et la puis, déviation ben, de Delors voilà, aussi hein, sur son but.
Il y a Marseille qui arrive au Vélodrome. Il y a la réception du derby, un des matchs les plus importants pour nous à la Mosson. Donc c'est bien de pouvoir prendre 3 points ce soir. Après, je sais pas, je vais m'appuyer peut-être sur vous. Au niveau du jeu, c'était satisfaisant à la Mosson pour un match à domicile ou pas?
C'était moins bien huilé que d'habitude. Mais bon, Montpellier agit quand même, comme d'habitude à domicile, comme un rouleau compresseur par son allant et puis cette capacité aussi à avoir du répondant, du caractère constamment. Rien que devant, le duo Laborde-Delors, ça agresse constamment la défense adverse. Alors certes, Nice était... quand même diminué avec cette charnière inédite et puis Loris qui quand même Loris ou Loris qui quand même n'en est pas à sa première bourde, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Montpellier à domicile est intraitable.
Ouais.
C'est ce qui en fait
les gars, Laborde après à chaque fois, bon, il sort, il marque moins ces derniers temps que bon, enfin déjà la semaine dernière,
il fait énormément,
mais c'est un travail de l'ombre, etc. Ouais, il est super précieux devant.
Exactement.
Avec Delors pour la connexion avec des deux attaquants à Montpellier, c'est vraiment fabuleux. Puis à chaque fois que je vais dans l'after, je me dois d'en parler, c'est puisque Hilton, c'était son anniversaire hier, 42 balais,
encore
lui qui sort la balle de deux, c'est on a vraiment plus de mots.
En fait,
je crois que c'était le même nombre de matchs que Dido, c'est ça?
Non, il en a plus.
Et il en a plus, ça va être
moins de temps, arrivé à
400,
ans.
C'est fabuleux quoi.
Ouais, on va regarder ça. Mais non, mais sur ce match-là, tu parlais de Laborde. Non, mais c'est pas parce qu'il marque pas qu'il n'est pas ultra précieux quand même dans le jeu.
Dans
ses appels, tu vois, sur le but de Delors, le contre-appel qu'il fait, ça lui libère l'espace. Delors aussi très bon ce soir parce qu'il met son but, mais sur le but de Mollet, c'est lui, il me semble, qu'il fait une très belle déviation pour Florent Mollet. Et il y a une chose à noter, j'ai trouvé Montpellier bien ennuyé en première mi-temps avec la vitesse dans les couloirs niçois. Mais le changement que
Darzakarian
fait, en deuxième mi-temps où il fait sortir Daniel Congré pour Nicolas. Kozza, qui est un peu plus rapide et qui a permis de mieux contrôler la vitesse des ailes niçoises, a à mon avis changé le film du match. Après Montpellier, voilà, c'est une équipe qui est sérieuse, il y a de la qualité à toutes les lignes. Ils vont récupérer TJ Savanier d'ici 2-3 semaines, Savanier, c'est ça?
Un mois, lors de la prochaine trêve internationale, a dit Darzac.
Bon, et ça risque de vraiment changer la face de ton équipe, parce que là, pour l'instant, le milieu, que ce soit Ferry ou Doudletalek, les deux sont performants.
Qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs, à ton avis? Il va passer à... Enfin, comment tu veux qu'il articule son milieu? Le Talek va sortir,
je pense. Ferry et Savani ont montré une belle complicité l'année dernière sur la deuxième partie de saison à Nîmes. Et il y a une chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est les latéraux montpelliérains de cette année, Souquet et Onyango. On parlait des latéraux quand il y avait Ruben Aguilar, comment il s'appelait celui qui est parti en Allemagne? Ton ancien latéral qui Roussillon. Est parti en Allemagne. Et Roussillon, on disait que Roussillon et Aguilar, c'était une des forces de Montpellier. On s'inquiétait un peu de voir partir. Là, écoute, Souquet et Onyango, pour moi, les remplacent de très belle manière.
C'était ce soir d'ailleurs. Souquet Tico.
Ah oui.
Ancien Niçois, aujourd'hui Montpellier. Hein. Exactement.
Le but contre Lyon était fabuleux. Ouais.
Ouais. Merci Ludovic.
Salut Ludovic.
D'avoir appelé au 32-16.
Juste un truc, les gars.
Vas-y.
Je pense qu'au niveau du public montpelliérain, bon, la butte, on n'en parle même pas, ils sont là tout le temps, mais cette année, je crois qu'on est conscient pour le public d'avoir un effectif de malade, et que ce soit le match contre Lyon, même si ce soir il y avait un petit peu moins parce que c'était pas trop le match champagne, ouais, il y a une conscience qu'on a un bon groupe, et franchement, ben,
tu rêves de quoi cette saison? Tu rêves de quoi en fin de saison pour Montpellier?
Top 5.
Top 5?
De quoi?
Top 5? En fin de saison?
Carrément, on était 6 l'année dernière, donc, oui, l'objectif toujours c'est de terminer.
Tu t'es vraiment renforcé cette année?
Ben, en plus, donc pourquoi pas plus haut, on sait jamais.
Exact, tu montes top 5,
tu perds qu'Aguilar.
Oui, c'est ça. Et tu prends Souquet. J'ai trouvé Jérôme Rouli très bon ce soir. C'est un bon gardien, on le sait. Il était connu en Argentine pour être un des potentiels gardiens titulaires de l'Albi Céleste. Donc il y a un bon gardien. Tu as remplacé Aguilar, tu prends Souquet, c'est pour ma foi, c'est très bien. Et surtout au milieu de terrain. C'est un cran dessous, mais ça n'a pas à rougir. Et surtout au milieu de terrain, tu prends Ferry et Savanier. C'est quand même extraordinaire.
Savigny n'est pas là encore. Il va revenir a priori en octobre après la prochaine trêve internationale.
Merci Ludovic. Pour une bouchée de pain, au vu du marché et de la frénésie du marché.
C'était cadeau le prix.
Ouais, on bosse bien Montpellier. Également Nice. Un mot sur Nice, quand même, messieurs. Oui. Rappelons quand même que Nice est privé de sa défense quasiment intégralement. Erel, Dante, Malangsar n'étaient pas là ce soir.
Et comment tu veux faire?
Ah oui, tu peux pas.
Compliqué. Hein.
Pourtant ils ont gagné des matchs hein, sans eux.
Mais tu vois qu'en fait Nice s'est habitué à jouer 109. Pendant tellement de temps que là ils récupèrent Casper Dolberg, mais ils jouent sans lui. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à jouer sans un vrai numéro 9 qu'ils en ont oublié de jouer avec lui ce soir. Et lui, bon, il a eu une occasion, il aurait peut-être pu décaler, être un peu plus altruiste, à décaler juste Ounas, lui mettre une petite balle dans
les frappes là-dessus. Il dribble, il accélère.
C'est pas un scandale, mais franchement, Ounas est beaucoup mieux placé.
Vrai.
Mais voilà, il prend ses marques tout doucement. Nice est en reconstruction, pareil. Ça demande du temps. Si on laisse du temps à Silvinho, si on laisse du temps à plein d'autres, je vois pas pourquoi on laisserait pas un peu de temps aussi aux Niçois. C'est un nouveau projet qui arrive. De nouveaux joueurs viennent à peine d'arriver. Bon, et Patrick Vieira, il galère depuis déjà tellement longtemps. Alors, il est plus à deux semaines près. Il est plus à deux semaines près.
Il y a deux interrogations pour moi sur Nice. Donc, la première, c'est que, effectivement, il va falloir du temps. Tu as reconstruit tout ton secteur offensif dans les derniers instants du mercato. On va voir. Je pense que Claude Maurice, là, il a vraiment le niveau. Il est rentré, mais je pense qu'il a vraiment le niveau pour s'imposer assez rapidement titulaire. Dolberg, il a eu une saison, il me semble, un petit peu compliquée l'année dernière. Mais c'est un bon attaquant. Il va falloir qu'il retrouve le rythme de la compétition et qu'il s'intègre dans le schéma offensif niçois. Et Adam Ounas, on sait ce que ça vaut. Donc, voilà. Les trois, va falloir trouver comment les articuler ensemble. Pour moi, il doit jouer latéral gauche. Quoi. Enfin, c'est pas.
Il est redescendu en fin de match, latéral gauche, mais il a joué militaire offensif.
Et après, l'autre gros point d'interrogation que j'ai, c'est ce milieu que je trouve très séduisant.
Tamézé progresse. Hein.
Techniquement, Tamézé, Lasmel ou Cyprien, mais je sais pas si c'est pas un petit peu léger défensivement face à certaines équipes. Là, j'ai trouvé que par moment, en phase de récupération, face à Montpellier, qui eux sont très compacts au milieu de terrain avec les deux latéraux qui viennent apporter le surnombre à la récupération au duo Ferry-Le Talec, j'ai trouvé que parfois ils étaient un petit peu naïfs dans les duels.
Voilà pour la victoire de Montpellier face à Nice, 2-1. Dijon-Nîmes, messieurs, rapidement, 0-0.
Oh, c'était une pure.
Non, mais Dijon, ça fait quoi? 3 semaines qu'on en parle dans l'after. Ouais. Dijon, c'est dernier, 1 point sur 15 possibles. 1 but marqué seulement cette saison. Des occasions, mais on n'arrive toujours pas à concrétiser alors que ça y est, leurs recrues, notamment de la Juve, ont joué ce soir. Est-ce que Dijon, on enterre déjà l'histoire? Ça va descendre forcément?
Oh là là, non,
c'est mal parti parce que quand tu sors sur une saison où tu te sauves au niveau des barrages, déjà ça devrait insuffler quelque chose, une nouvelle dynamique. Ils ont pas énormément recruté ou tardivement.
La dynamique du miraculé.
Tu t'es pas vraiment renforcé. Et puis l'entraîneur, c'est un vrai coup de poker. C'est-à-dire que tu tentes un coup. Est-ce que c'était le moment de tenter ce coup-là? Je sais pas. Il faudra aussi, pareil, c'est un nouvel entraîneur. Le groupe a pas vraiment changé, donc
il y a eu des renforts.
J'arrive pas à voir vraiment l'impact de cet entraîneur sur le groupe pour l'instant. J'ai pas le sentiment que cette équipe
est déjà dans le l'instinct de survie, parce que cette équipe-là, elle va avoir besoin d'être dans l'instinct de survie dès le départ, au vu de ce qu'elle a vécu la saison dernière et au vu du commencement. Il faut déjà être dans la position de l'équipe qui
va se budgéter jusqu'au bout.
Ce qui
peut être encourageant, c'est que ce soir, pour la première fois, je les ai trouvés relativement sereins derrière. École et Manga, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Je pense que c'est une bonne recrue pour eux, parce que défensivement, l'année dernière, c'était une équipe, c'était porte ouverte.
Ils prenaient l'eau.
Après, le problème dans cette équipe-là, c'est que t'as un Tolly au milieu qui est Balmont, mais qui, voilà, on peut pas non plus lui en demander trop avec l'âge qu'il a.
Il revient, parce que les premiers matchs, il l'avait pas mis. Donc aussi, cette équipe, elle a besoin d'un mec d'expérience.
T'as Balmont,
on s'est pas passé de lui la saison dernière.
Et t'as École et Manga. Et puis après, voilà, ça semble un petit peu léger pour une équipe qui va jouer la descente jusqu'au bout. Mais il y a des joueurs, pour moi, c'est une énigme. Je veux pas lui taper dessus chaque semaine, mais je me demande encore ce que fait Didier Ndong, titulaire dans une équipe de Ligue 1, quoi.
Oui.
Tu vois encore le match qu'il fait ce soir, ça manque de simplicité, ça manque d'intelligence de jeu.
Là, il a 37.
C'est incroyable.
38 ans même.
38 ou
30. Il a toujours 4 ans de moins que Vitorino Hilton. Après, c'est l'éternel débat, hein. Un milieu de terrain, à moins de longévité qu'un défenseur central.
À l'heure actuelle, dans l'équipe de Dijon, il est indispensable. Indispensable.
Oui, exactement. Ouais.
Comme il a été un grand artisan du fait que Dijon se soit sauvé.
Ah bah l'année dernière,
clairement.
Ah bah
oui. Clairement.
Après, il y a 2-3 joueurs qui sont pas mal, je trouve, dans cette équipe. J'ai aimé l'entrée du 21, la Mounir Choulard, qui a fait, mon avis, 2-3 fois. Sur 2-3 passes, tu sens qu'il a du ballon. À un moment, il décale parfaitement Baldé. Il y a une belle occasion. Si ça te fait 1-0, il n'y a pas scandale. Mais voilà, ça reste très faible. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur ce match-là, face à une équipe qui est quand même Nîmes, c'est une équipe qui est relativement sérieuse, je l'ai trouvé en progrès par rapport au présent de sortie.
Jérémy, supporter dijonnais au 32-16, nous appelle. Salut Jérémy.
Salut.
Salut. Il y avait des recrues là, de la Juve et de la Juventus Turin là, prêtés avec option d'achat, Pereira et Mavididi, titulaires ce soir. T'en as pensé quoi?
Pereira, cuit footballistique inexistant.
Ah.
Je ne sais pas ce que vous avez pensé de lui, ce que je ne vous ai pas écouté juste avant parce que je rentre du stade là.
Bah, ça manque de simplicité terriblement en première mi-temps. Tu te dis, tu te prends la tête à deux mains en disant, mais voilà, ça sert à rien de toucher autant le ballon.
Tu
quoi.
Dis, le mec, il a 21 ans, il a fait quelques saisons à la Juve. Bon, il n'a jamais joué en équipe première. Tu dis pourquoi pas?
Oui, il a joué en réserve. Il a joué en réserve.
C'est tu comme dis pourquoi Jobari, pas?
Il entraînait en réserve, il était très fort. Après, il passe dans l'élite et c'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. Au niveau du plan de jeu, on ne sait pas quoi s'attendre, quoi. Le seul qui, comme il a dit Jonathan, c'est Chouillard. Quand il est rentré, lui a mis le feu. Soumaré, il a fait une bonne entrée aussi. Après, c'est un joueur qui vient de N3. Donc c'est pareil, c'est un peu juste physiquement.
Le petit Chouillard, en plus, il a pas beaucoup joué, il me semble. Il était à Lens l'année dernière. Je pense qu'il a fait,
il est à Lens,
il a fait 2-3 matchs. Mais tu sens sur à chaque fois qu'il a pris le ballon qu'il a quelque chose.
Ah bah, il fait la diff tout de suite. Hein. Il fait la diff tout de suite. Après, il aurait pu quand même mettre un but devant. C'était assez faible là. La nouvelle recrue, pareil.
Baldé. M'avait dit.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas. Je trouve que c'est pas top techniquement. Et après, moi, ce qui m'a le. Alors, je sais que vous allez pas trop aimer, mais ce qui m'a le plus déçu, c'est l'arbitrage, quoi.
Pourquoi?
C'est l'arbitrage de Frappard.
Sur le penalty à la fin.
Alors sur le penalty.
Pourquoi il y a faute à la fin?
Il y a faute sur Baldé.
Entre autres, et surtout au niveau des contacts, c'était. Ça sifflait dans. C'était n'importe
quoi. Jérémy, tu l'as revu l'action sur la faute sur Baldé?
C'est pas clair en fait. Ça dépend des angles de caméra.
On l'a vu beaucoup de fois ralenti. C'est difficile de siffler. Hein.
Ludo.
Je ne veux pas revenir là-dessus.
Attends, Jérémy. Vas-y, Ludovic, reste avec nous.
Si tu veux, j'ai envie, ou du moins, c'est ma philosophie, j'ai envie que cette équipe elle soit un peu plus audacieuse. Certes, tu sais que ça va être une année galère. Mais tu joues avec trois milieux qui sont censés créer le jeu à vocation quand même défensive. Ndong, Balmont, Amalfitano.
Amalfitano, il est quand même un peu plus.
Amalfitano, c'est pas un mec, c'est pas un créateur, clairement.
C'est un relayeur.
Donc tu veux, j'ai envie que cette équipe de Dijon, elle s'inspire de ce qu'a pu faire Amiens, par exemple, la saison dernière, en disant voilà, perdu pour perdu, on tente le coup. Tu vois, j'ai l'impression que cette équipe, elle a plus de facultés sur le plan offensif que sur le plan défensif. Eh ben, elle joue sur tes qualités, et puis tu verras bien. C'est-à-dire que vaut mieux appuyer sur tes qualités que de te mettre, jouer sur tes défauts. Je sais pas. Est-ce que c'est effectif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe? J'ai pas l'impression.
Non.
Donc autant tenter un coup, autant
ça répond pas en tout cas.
Un peu plus audacieux.
Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer.
Allez, on revient dans un instant pour la suite de l'after avec Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. On va débriefer aussi la victoire des Girondins de Bordeaux. 2-0 face à Metz. Bordeaux, finalement, 4 matchs sans défaite.
Ouais.
2 victoires, 2 matchs nuls. La série est plutôt positive. Mieux, ouais. Ça va beaucoup mieux pour les Girondins de Bordeaux. Le rugby, rapidement, Union Bordeaux-Bègles, justement, à Chamandelmas face au Stade français. Dorian Malvezin.
72e minute de jeu, 45-3. 2 essais en 5 minutes pour l'UBB. Colachvili et Wookie. 72e minute de jeu, 45-3 pour l'UBB.
Neymar, les drôles de dames, Fred Hermel, Simone Rovera, Paulo Breitner et Julien Laurence. Le débrief de la soirée du PSG et également des gros matchs, des grosses affiches européennes à 4 jours de la reprise de la Ligue des Champions, la phase de poule. A tout de suite pour l'after, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC,
l'after foot,
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak. On est ensemble jusqu'à minuit. Dans un instant, le débrief de PSG Strasbourg, Neymar et également les drôles de dames, la Juve, le Napoli qui s'impose, le Bayern tenu en échec par Leipzig, le carton du Borussia, tout ça on en parlera parce que dans 3 jours, le retour de la Ligue des Champions sur RMC Sport.
Eh oui.
Tous les matchs sur RMC Sport, bien sûr, dès mardi, 18h55, avec notamment Lyon-Zénith, 18h55, et puis on verra aussi le LOSC à 21h.
Ludo
Amsterdam.
Ah bah si on est dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières saisons en Ligue des Champions, ouais, je suis carrément excité. Ouais.
Et puis on a encore 3 clubs français en face de poule.
Tu y vas ?
Où ? Amsterdam ?
Bah non, mais tu vas te faire 2-3 matchs.
Ah bah j'espère bien que je vais aller voir le LOSC si j'en ai
le temps. Toi, les gens rendu compte qu'ils pensaient que c'était Lille-Ajax.
Non, mais non,
vas. Après,
il après, aller,
ils se récupèrent en disant non, mais dans 15 jours.
C'était pour qu'on gratte tous les deux dans le loge VIP avec Ludo.
Ouais, tu sais, toi, tu as une vie de célibataire endurci. Tu peux te déplacer.
Ah, on saura tout.
Tu peux te déplacer à Amsterdam, faire ton petit truc le mercredi.
Je trouve que.
En tant que père de famille, moi, il y a l'école des enfants le jeudi matin, je peux pas me déplacer.
Mais bon, il a des animaux chez lui, il a une ferme à la maison.
Eh bah bien sûr, non, mais attends, Marinette, je peux pas laisser. C'est toute seule la pauvre.
Tu parles toujours de Marinette et jamais de ton chat.
Mais parce que Marcel c'est plus simple, tu lui laisses des croquettes et de l'eau, c'est facile. Marinette faut la sortir, tu vois, c'est
qu'elle
me manque. Non.
On avance.
Sauvez-nous s'il vous plaît.
La victoire des Girondins de Bordeaux.
Vous les aimez, vous les adorez Marinette.
La victoire des Girondins de Bordeaux, 2-0 face au FC Metz. Les buteurs bordelais ce soir, de Préville a marqué pour Bordeaux et l'autre buteur bordelais, messieurs. J'ai oublié. Un truc que je vous dois à la patate chaude. C'est Jimmy Briand. Ouais, évidemment, Jimmy Briand. Encore une fois. Briand, le joueur français, meilleur buteur en activité actuellement en Ligue 1. Le 32-16, Jean Aurel nous a appelé. Salut Jean Aurel.
Salut Nicolas, comment tu vas? Comment vous allez tous?
Très bien, merci d'être avec nous dans l'after. Bon, ben, la série est positive pour les Girondins de Bordeaux. Hein. Bordeaux, au classement désormais, est 8e de Ligue 1, 7e de Ligue 1 avec 8 points. 4 matchs sans défaite consécutivement.
Oui, bon, ce genre de statistiques, je vais vous le laisser, puisque quand on voit aussi les adversaires, on va attendre le match du Paris Saint-Germain et aussi des matchs où il y aura peut-être un peu plus de certitude. Par contre, ce qui est une évidence, c'est qu'on a vu un Bordeaux extrêmement convaincant ce soir, notamment sur les phases offensives. Et puis, je vous avais appelé cet été, et c'est toi que j'avais eu, Nicolas, notamment, et il y avait Ludo aussi autour de la table, c'était par rapport au milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Ce que j'ai beaucoup apprécié ce soir, c'est que les défenseurs centraux, à l'image de Laurent Koscielny et de Pablo, ont réussi à aller amener le surnombre sur cette zone du terrain. Et ça a fait énormément de bien et créé des décalages, notamment pour Samuel Kalou et Nicolas Depréville. Et ça a fait, on a assisté à une très très belle partie.
Les défenseurs
aussi les
défenseurs centraux. Pablo, il a pas joué à gauche.
Si, tout à fait. D'accord. À gauche, ouais, mais parce que, voilà, vous avez compris, ouais, d'habitude, d'accord, il joue en défenseur central. Ouais.
Parce que Jean-Rel, c'était ça en fait le point majeur de ce match-là. Tactiquement, c'est cette défense à 4 que j'ai trouvé très bien huilée. Et surtout en termes d'animation offensive, j'ai trouvé que ça avait bien marché, parce que ce soit Kouateng ou Pablo, les binômes qu'ils ont formés avec Wang et Kalou, je les ai trouvés très performants, notamment en première mi-temps où à chaque fois ça combinait bien. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'animation sur les côtés que lorsque par exemple tu joues à 3, alors que normalement c'est censé être l'inverse. Là, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, et on sait que Paulo Souza met l'accent, du moins dans tous les clubs où qu'il a pris auparavant, il met l'accent sur ce jeu sur les côtés. Et là, j'ai trouvé vos côtés très dynamiques, et surtout serait sur le gâteau avec un Nicolas Depréville qui retrouve enfin son niveau, le niveau qui était le sien au moment où il arrive à Bordeaux. Quoi.
Ça fait longtemps, on va être patient encore avec Depréville, hein, on va voir.
Depuis que Paulo Souza.
Vas-y Ludo.
Depuis que Paulo Souza est là, il est en progression constante. C'est lui qui lui a redonné de la confiance, c'est lui qui l'a remis en selle. Alors certes, il lui arrive d'être assez irrégulier, mais sur le front de l'attaque, honnêtement, c'est depuis un certain temps le joueur sur lequel les Girondins peuvent s'appuyer. Ouais.
C'est lui qui crée le jeu, en fait.
Et c'est très intelligent, parce que Nicolas, il aime bien partir d'un peu plus loin. Donc c'est en tant qu'électron libre comme ça, tu le vois sur la première action qu'il a où il essaye de, je crois qu'il essaye de piquer ou quoi, c'est la première action. Il se retrouve face à Oukidja, je sais plus si c'est un retour du défenseur ou si c'est Oukidja qui la sort, mais déjà tu vois il part de plus loin, il fait l'appel avec sa prise de vitesse, il arrive à partir dans le dos du défenseur. Voilà, il est bon, il est plus utile à cet endroit-là en laissant Jimmy Briand faire le sale boulot presque.
Ah bah ça oui.
que de coller comme ça à la défense centrale.
Ouais. Et aussi au milieu de terrain, alors je sais que vous n'êtes pas fan d'Otavio, mais je trouve que du moins la paire qu'il a formé ce soir avec Tchouaméni était relativement complémentaire.
Oui, bon. Non, mais la grosse marge de progression, elle est là, de toute façon.
Il faut qu'il trouve la formule au milieu.
Aujourd'hui, enfin.
Mais Otavio, on s'en parle de bien.
On parle du milieu de terrain, ils ont été corrects.
Oui, mais aujourd'hui. Excuse-moi, Ludo, je sais que ton cœur est messin, mais c'était Metz en face. L'adversité n'était pas non plus la plus élevée de la Ligue 1. Otavio il disparaît contre les grands.
L'important pour les Girondins, c'est qu'ils sont sur une belle phase.
Oui.
Ils ont joué Lyon, ils ont été capables d'être très bons aussi. La deuxième mi-temps contre Lyon a été particulièrement bonne. Donc c'est-à-dire que les Girondins ont besoin d'enchaîner les prestations de qualité, peu importe l'adversaire en face. Et là, ils ont un vrai coup à jouer parce que je crois qu'ils reçoivent Brest et ils vont à Amiens.
Exactement.
Donc, tu reviens dans la première moitié de tableau. C'est le moment de se servir de cette dynamique pour engranger des points avant le Paris Saint-Germain.
Surtout, tu dis que face au gros, mais Otavio, moi, je l'ai trouvé bon contre Lyon. Hein. Il a fait peut-être un petit peu trop de fautes. Il a un petit peu
brusque sur 35 minutes certaines. Et 11 contre 10,
ouais, mais même j'ai trouvé bon sur l'ensemble de la partie. Il est peut-être un peu brusque parfois sur certaines de ses interventions.
Il est clair, la marge est quand même correcte. La marge de progression, elle est là.
Oui. Après, tu lui demandes.
C'est souvent Koscielny qui fait le boulot des milieux de terrain.
Ludo,
c'est souvent
quoi,
lui
Otavio
qui prend le ballon et qui trouve la verticalité.
Non, mais à Otavio, qu'on soit bien clair, on va pas lui demander de faire des ouvertures de 40 mètres. Voilà, on sait que balle au pied, c'est pas non plus. C'est voilà, en termes de qualité de passe, c'est pas non plus ça. Mais en termes d'activité et de volume à la récupération, je trouve correct. Je trouve qu'il est correct. Et après, c'est en fonction de qui tu lui mets à côté. Quand tu lui mets à côté un mec comme Tchouaméni qui a du ballon, pour moi, c'est cohérent.
Jean-Réal reste avec nous. C'est fini à Chamois Delmas. L'Union Bordeaux-Bègles s'impose face au Stade Français d'Orient Malvezin.
Ah, il s'impose même largement. Victoire 52-3 à la fin du match. Mathieu Jalibert, voilà, il doit marquer son petit essai du match. Il a marqué suite à une mêlée. Il l'a transformé juste derrière. Quatrième victoire de suite pour les Unionistes. Super soirée du côté de Bordeaux.
Merci, excellente soirée à toi, Dorian. Deux victoires à Bordeaux.
Ils veulent jamais nous laisser la couverture, Bordeaux-Bègles. C'est incroyable.
Dingue. Tous les samedis soirs.
Quand les Girondins gagnent, il faut qu'ils gagnent.
Vous êtes écrasant leader, là. Top 14. Hein, 4 matchs, 4 victoires.
Heureux, là.
20 000 personnes au Chabon ce soir.
Ouais.
Bon, je vais pas faire le refrain. Il y en avait 10 000 à Matmut, à quelques kilomètres de là. Jean Aurel, ton avis sur les milieux de terrain bordelais, sur la marge de progression du milieu de terrain bordelais, qui est clé, forcément, dans cette saison?
Alors, mon avis, je rejoins l'avis de Jonathan hein, sur Otavio, et je vois qu'il est très averti encore sur les joueurs sud-américains. Petit clin d'œil pour lui, évidemment. Blague à part, je trouve que Tchouaméni avait fait, mine de rien, une bonne prestation à Lyon, puisque c'est lui qui intercepte le ballon, qui amène le but.
Ah oui,
ça,
c'est
vrai. Oublie. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur, qu'il a besoin de coffre, qu'il a besoin d'enchaîner les prestations, qu'il a été baladé et surtout vu comme un futur top, alors qu'il n'avait pas joué encore de match pro. Donc il faut un peu lui laisser le temps. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Si tu n'es pas d'expérience sur ce milieu de terrain, tu vas arriver à tes limites. Tu l'as dit, Nicolas, ce soir c'est Metz. Là, il y a un calendrier qui est plutôt favorable. Et Metz a joué ce soir au ballon. Ils n'ont pas joué à 10 derrière. Là, je suis en train de regarder le décrassage là, en même temps que je vous parle. Donc,
t'es au stade ?
C'est un pur bonheur. Oui, tout à fait.
D'accord.
Et si vous voulez, c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant. Si vous tombez sur des équipes qui jouent à 11 derrière, je suis pas sûr que Bordeaux va arriver à trouver la faille, bien que vous avez un Wang et un Kalou qui sortent d'une très bonne prestation
en sélection. Et Wang, quand même, surprise.
Bien sûr, mais
il a une vraie bonne surprise.
Alors, pourquoi bonne surprise
parce que je connaissais pas ce joueur. Et
oui,
que
mais pour l'instant, il a un but cette saison. Oui,
non, mais le travail et le volume de jeu, c'est voilà.
Disons qu'il apporte une sécurité sur le côté.
Tu vois, à l'image d'un mec comme Laborde, c'est un rouleau compresseur. Il est au pressing, il fait mal.
Il court tout le temps.
À chaque fois qu'il court, il va toujours de l'avant.
Il redescend bien assez bas pour aider son latéral.
Il a 350 minutes en Ligue 1 désormais. Il a un but marqué. Il est venu en tant que numéro 9 à Bordeaux.
Ah, mais là, il joue sur un côté.
Et bah,
l'accent sur quelque chose d'important. Je crois qu'il y a Laurent Cali qui s'est exprimé dans l'équipe, aujourd'hui, mais il s'est exprimé auparavant aussi, sur ce poste du numéro 9, à savoir que Wang avait été recruté pour ça, et puis finalement il joue sur un côté. Bon, ça marche très bien parce que ça a l'air d'être un besogneux, tant mieux. Maintenant, il faut pas oublier aussi qu'il y a des dirigeants qui avaient parlé de l'expérience sur ce poste-là. On a Gilly Briand qui fonctionne, tant mieux encore. On va tirer un grand coup de chapeau à sa performance ce soir, mais il va falloir plus. Parce que quand tu vas affronter des équipes du top 5, que ça va être Rennes, que ça va être Lille, que ça va être tout ça, ça va peut-être être un petit peu limite. Bien que, et là ce n'est pas que le supporter qui vous parle, c'est que je pense qu'on a une des meilleures défenses sur le papier du championnat de France. Mais si tu n'as pas de milieu de terrain et d'attaque, je parle d'attaque quand j'ai un numéro 9 vraiment très expérimenté, et qui a de la réussite, excusez-moi pour ça, il y a un serveur qui a fait tomber un plateau à côté, tu vas forcément être un petit peu frustré parce que tu fais les bonnes performances contre des promus, contre des équipes du milieu de tableau. Mais si tu veux plus quand t'es les Girondins de Bordeaux, et c'est ton objectif, il va te falloir plus de joueurs. Oui,
Jean-Rol, j'ai une question pour toi. Quand tu parles de meilleure défense, tu l'as pour toi la meilleure défense, tu l'imagines à 5 ou à 4?
Tu veux même que je te dise, Ludo? Je l'imagine à 3 encore. Voilà.
Ce soir, c'est Koscielny, Jovanovic, Pablo, avec Coating à droite en piston et Kalou. Hein,
tu trouveras forcément des limites parce que ce soir, ça passe très bien parce que Metz a des joueurs, a des contre-attaquants qui sont plutôt rapides. T'as plutôt joué la sécurité. D'habitude, t'as Pungé d'un côté, Sabali de l'autre, qui joue très haut, donc qui laisse des boulevards dans leur couloir, qui sont pas toujours compensés par cette défense à 3. Aujourd'hui, t'avais Pablo et Coating qui sont des joueurs plutôt à vocation à ne pas. À ne pas monter, tu vois, c'est-à-dire des joueurs qui assurent le coup, ils assurent sur le plan défensif à chaque fois les couvertures, mais comme tu le dis, Jean-Rel, sur les matchs un peu plus difficiles, il va falloir que tes latéraux t'apportent un surplus, parce que c'est vrai que cette animation offensive, certes,
là où tu passes à côté de Didac Villa, de l'Espagnol notamment, là, je fais un petit clin d'œil au mercato. Qui t'aurait pu te faire énormément de bien.
Benito était blessé.
Je sais pas là. Faudrait regarder. J'ai pas envie de dire de saucisse.
Je crois qu'il était même pas sur le banc.
Par contre, pour parler de Benito rapidement, qui n'est pas au départ un latéral gauche.
Il n'était pas dans le groupe Benito.
J'avais déjà parlé. Je trouve qu'il a quand même réussi à s'adapter à un certain moule. Il est en confiance. Ça s'est vu avec la sélection de la Nati. Il joue juste en fait sur sa première intention en toucher de balle, et c'est de ça dont on avait besoin aussi, parce que finalement c'est pas d'un mec qui court très vite sur le côté gauche dont t'as besoin, c'est d'un mec.
T'avais déjà ce profil là. Et
on va arrêter de parler de Bordeaux dans un instant parce qu'après on dit quelques mots, on parle trop de Bordeaux. Juste, j'avais une question sur Yacine Adli quand même, qui est à Bordeaux désormais. Il est entré en jeu à la 55e, il a remplacé Jimmy Briand. Comment vous jugez Yacine Adli? Qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Un gamin dont on parlait comme un espoir il y a 2 ans au PSG. C'est long.
Il a un projet en construction. Il apprend son métier.
C'est un projet en construction. Physiquement, il n'est pas arrivé à maturité. Tu sens qu'il a encore besoin de s'épaissir, de prendre un petit peu de volume physique, mais tu sens que quand il touche le ballon, il a quelque chose de différent. Après, voilà, il faut qu'il arrive à maturité physique, parce que pour l'instant, je le trouve un peu léger dans les duels.
Sur le précédent match, si tu veux mon avis, Nicolas, j'ai trouvé très intéressante sa prestation à domicile contre Montpellier, excuse-moi, où il joue à une touche de balle, mais pourquoi? Parce que tu as aussi tes collègues là, qui font le décalage. Donc ça te permet aussi de pouvoir jouer dans ce type de jeu. Maintenant, je suis d'accord, il a besoin de s'épaissir. C'est quand même un transfert à 5,5 millions.
Et oui,
quand vous interviewez les gens du Parisien, ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu arriver le transfert. Donc ça sort un petit peu du chapeau. Et ce garçon-là, peut-être aussi, si on se met à sa place, on a un peu d'empathie pour lui, qu'il a besoin de digérer ce statut-là.
C'est un jeune joueur.
Si on a de Bordeaux, il faut aussi avoir les épaules. Hein. Ouais.
Merci Jean-Aurel.
Salut.
D'avoir appelé au 32-16. Bordeaux-Brest la semaine prochaine, effectivement. Et Amiens, Bordeaux dans la foulée. Et après le PSG.
Peut-être plus compliqué contre Brest que contre Metz.
Et enlève ton pull des épaules, Jean-Aurel.
Arrêtez avec ça. Mais les gars, mais ça, Julien Cazard, je lui ai fait la morale l'autre jour. À chaque fois, vous parlez des Girondins, les gars. C'est pull autour du cou.
Chaussures bateau.
C'est Sebago ou chaussures bateau. Et week-end au Café Ré. Non. Bordeaux est multiple. Tous les Bordelais n'ont pas au Café Ré. Tous les Bordelais n'ont pas des pulls autour du cou.
Il y a aussi une petite.
Non, mais ça, c'est voilà. On va arrêter avec ça.
Il y a aussi une petite tendance dreadlock, c'est jouer de la guitare acoustique.
Il y a tout. Il y a des punks à chiens. Il y a des grands bourgeois.
C'est
il y a des
vrai
gens...
que t'as l'habitude d'aller à la cano, toi.
Oui. Moi, je fais tout le triptyque, hein. Arcachon, Cap Ferré, le Pila et la Cano, très bien également, pour surfer. Voilà pour la victoire de Bordeaux. Rapidement, messieurs, Brest-Rennes, 0-0. Oui. Décevant Rennes, c'est vrai, qui jeudi joueront face au Celtic, qui s'imposait d'ailleurs le Celtic 1-0 en championnat. Mais ça, c'est normal. Brest-Rennes avec une scène incroyable. 8 minutes d'arrêt de jeu à cause de la vidéo. on peut le dire à cause de la vidéo. Un but dans un premier temps, axe validé pour le Stade Rennais. Six minutes après, Clément Turpin décide enfin d'aller voir son écran. Il revient sur sa décision, il refuse le but. On est resté à 0-0.
Pour le coup, là, pas facile à juger, mais c'est...
Il y a une poussette quand même.
Bien sûr qu'il y a une poussette. Pas simple à juger, mais encore une fois, va voir la vidéo tout de suite. Pourquoi tu... C'est quoi ce truc?
8 minutes.
Alors, il est devant la... Je pense que ce qui l'induit en erreur, c'est qu'il est bien placé. Il est devant l'action, je crois, il est à 3 mètres, il est à 3-4 mètres de l'action. Après, il voit peut-être pas le départ de l'action. Donc, la finalité, c'est que le gardien sort, tamponne, ou son défenseur le tamponne, le
poussé
ballon revient sur un Rennais. Donc, le but te paraît validé sans aucun moyen de contester. Sauf que, quand tu vois la réaction des Brestois, forcément, ça t'induit un peu en erreur.
Ouais.
Et il met énormément de temps avant d'aller voir. Et je trouve que la décision est plutôt bonne parce que c'était un match serré, l'enjeu était important et qu'il a pris la bonne décision.
Franchement,
ça prend énormément de temps.
J'ai vraiment pas compris comment Rennes a voulu jouer ce soir. Jouer à 5 comme ça derrière alors que t'as quand même des bons joueurs, de densifier à ce point-là ta défense parce que tu joues. Ouais, ok, c'est un déplacement qui est compliqué, c'est à Brest, c'est une espèce de derby breton, je veux bien, mais de là à aller à 5 alors que t'as des joueurs sur le banc qui ont de la qualité comme, je sais pas moi, Flavien T, je pense qu'il y avait quand même moyen d'essayer autre chose. Après, Rafinha, intéressant sur, c'est son premier match, c'est la première fois qu'on le voit. Intéressant dans ses prises de balles. On sent pas que, par contre, c'est pas vraiment un joueur qui peut jouer sur la pointe de l'attaque, mais que c'est plus un joueur de côté. Mais encore une fois, voilà, ce soir, pour résumer le match, j'ai pas compris ce que Stéphane a voulu mettre en place.
Voilà pour les matchs de la Ligue 1 ce soir de la 5e journée. Et avant cette soirée qui a commencé à 20h, il y avait le PSG qui recevait Strasbourg au Parc des Princes. Journée et après-midi, émotion, ascenseur émotionnel, des sifflets, des cris, de la joie, de la contestation. Neymar a été sifflé, mais Neymar a sauvé le PSG. On débrouille dans un instant, c'est Samba. Caméra sur le dos, Braniac, s'il vous plaît, qui esquisse quelques balles de Samba. Oui, mais c'est le plus polonais des Brésiliens, évidemment. Déjà le Brésil, ou pas?
Non, encore jamais.
Eh ben, on ira tous ensemble, messieurs. Voilà, l'after revient dans un instant jusqu'à minuit. Les drôles dames nous attendent. Fred Hermel est en coulisses, comme Julien Laurent, Simone Rovira et Paulo Breitner. L'after jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamin.
Et oui, l'after est là, comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit, avec ce soir Jonathan Aubragnac et Ludovic Macardy à mes côtés pour l'after foot.
Ne m'insulte pas.
Il n'a pas souri parce qu'il était vexé en fait.
Non, mais c'est un compliment pour lui. Il devrait être honoré de porter le nom d'une
de
tribu
façon,
de guerriers.
Il me cherche là en coulisses là sur WhatsApp. On va organiser.
Alors, on peut tout dire. J'ai reçu des messages.
On va organiser un petit truc tous les deux.
Alors là.
Et je vais lui mettre sa raclée.
On le filme, hein.
On va filmer ça.
La vérité, les gars. Puisque,
voilà, boxe française. Et je vais te mettre ta raclée.
Attends. On est transparent dans l'after, hein, rapidement. Il y a un compte WhatsApp. Qui s'appelle l'after de l'élégance. On va l'appeler comme ça. je reçois un message hier de Ludovic Obrania qui hier soir passé minuit. Qui nous dit, arrête avec ton MMA, on zappe. Réponse à Jonathan Macardy.
Qui voulait qu'on dise son émission,
son émission
en podcast.
RMC Fighter Club.
Voilà, Fighter Club avec Thomas Desson. Ludo enchaîne devant l'absence de réponse de Jonathan. Je te prends sur un ring quand tu veux.
Je lui ai répondu.
C'est ce qu'on va faire, les gars. On va le faire un soir, ça. Vous montrerez sur la table et il y aura un vrai combat.
Boxe française.
Mais Ludo enchaîne devant l'absence de réponse. Il tiendra pas deux rounds, cette ballerine. Jonathan Macardy envoie des rires.
Bah ouais, c'est vrai.
Comment l'interpréter.
Mais un low kick, c'est terminé.
Voilà, après, c'est qui Booba et qui vont se...
Mais ça veut rien.
Non. Et Caris, on fera le Macardy au Bragnac un jour.
Non, moi je vais pas dans la cage, moi c'est le noble art.
On peut mettre des low kicks.
Qui couche qui? Est-ce que Ludo couche Jonathan Macardy? Réagissez sur l'hashtag RMC Live. Les meilleurs réactions seront invités pour
monsieur
le combat.
Monsieur Gonflette, là, il tient pas de
compte. Je te mets un low kick et je t'étrangle.
Voilà, c'est l'after également. After basket, after MMA, after low kick. C'est parti. Messieurs, écoutez. Il a parlé. Neymar.
C'était un peu compliqué, un peu difficile. Mais j'ai rien contre eux. Quand je suis arrivé, il y a eu une grande fête et je ne l'oublierai pas, c'est dans mon cœur. Le plus important, c'est ce qui s'est passé sur le terrain parce que je dois me concentrer sur ma carrière, même si je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais jouer tous les matchs à l'extérieur.
Voilà donc la réaction de Neymar, qui n'en veut pas aux supporters. Supporter parisien, il vous pardonne, ouais. Neymar. C'est ça qu'on retient également de sa première déclaration. Steven Moreau,
je trouve un peu dur quand même.
Comment? Mais non, mais c'est un idiot fini. Ou alors il est bête, ou alors il a trop d'ego, ou alors tu fais le nécessaire. C'est-à-dire que quelle était la probabilité que ce match se termine de cette manière avec ce qui s'était passé? Le match, il est indigent. Paris est nul. Et lui, il prend ses responsabilités, il se cache pas. Il vient chercher les ballons, il essaye. Pourtant, il a été bousculé en début de match. Il lui arrive un truc extraordinaire. Il fait un truc à la 90e minute, un retourné pied gauche qui laisse tout le monde de marbre. Putain, mais t'as fait la moitié du job. Tu passes en conférence de presse. Eh ben, dis deux mots. Eh ben, je suis désolé. Je me suis laissé emporter. Et oui, je voulais rejoindre le Barça. Et voilà. Et sois intelligent. Tu vas passer ta saison à Paris, même si t'en penses pas un mot. Sois intelligent. Un petit mot pour les supporters. Ben, j'ai pas de mots pour les supporters. Ils font ce qu'ils veulent, machin. Et il y en a qui disent ouais, mais c'est génial.
Non,
parce
non, non, parce qu'on appelle la décla entier. Hein.
Bah,
on appelle la décla entier.
On va écouter d'autres choses.
Non, parce que la décla entier.
Il s'est pas excusé, Jonathan.
Il s'excuse pas. Il s'excuse pas. Mais il dit quand même qu'il comprend que ce soit dur. Il comprend leur sifflet. Il les accepte. Et il dit surtout, il y a une partie de qui est importante qu'on n'a pas entendu.
Mais qu'est-ce qu'ils en ont?
C'est quand il dit, je veux maintenant qu'ils se les concentrent à 100% pour le PSG. Après ça, il a pas dit en zone mixte. C'est rapporté dans les médias espagnols. Après, là où je te rejoins, c'est que pour moi, qui s'exprime, c'était peut-être un petit peu superflu. Alors certes, on va me dire, s'il n'avait pas pris la parole, on aurait continué les spéculations, les supputations. Mais il y a ce but, comme tu le dis, qui est extraordinaire à la 92e minute. Et tu sais ce que je pense qu'il
y aurait. Tu dis un petit mot pour les supporters et t'avais fait la moitié du job.
Non, parce que ça aurait fait
sonné faux cul, Ludo.
Mais tu voulais qu'il dise quoi? Ça aurait fait faux cul. On sait très bien qu'il veut partir, qu'il en a rien à foutre du PSG.
Tu lui demandes pas d'embrasser les cuissons du PSG.
Maintenant, je vais vous dire ce que c'est. Maintenant, c'est un mariage de convenance. C'est comme quand tu restes ensemble pour les enfants.
Exactement.
T'es obligé. Tu sais que tu vas faire la saison ensemble. Donc, on va pas lui demander de dire un petit mot pour le supporter parce qu'on sait qu'il n'en pense pas un mot. On n'en pense pas un traître mot. Ça serait de l'hypocrisie. Ce qu'il a dit pour moi, ma foi, quand il dit, je comprends les supporters, ça suffit. Après, si j'avais pu lui donner un petit conseil, pour moi, t'as marqué, dis rien, tais-toi garçon, tais-toi et concentre-toi
sur le l'occasion inespérée.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Tu surfes sur la vague,
mais bien sûr, tu surfes sur la vague.
Mais parce que là, ce que vous lui demandez de faire, c'est de s'excuser auprès des supporters alors qu'ils n'en pensent pas un traître mot.
Et alors,
nous, s'il
le pense pas, Ludo.
Et alors, on s'en fout qu'il le pense. C'est pour son bien-être à lui, pour le bien de tout le monde, pour le bien du Paris Saint-Germain.
Ça fait faux cul. Moi, je suis.
Et alors,
tu sais très bien. Tout le monde, si il s'excusait, tout le monde aurait dit, il est faux cul, il en pense pas un traître mot. L'été prochain, la première occasion peut venir, il va vouloir aller au FC Barcelone. Alors, regarde, je préfère qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment.
Mais c'est l'intelligence. Tu vas passer un an au Paris Saint-Germain. Les gens, ils sont en attente de ça. Ils sont en attente au moins d'un petit mot.
Il n'y a rien pour ajuster la relation. C'est brisé. Après ce qui s'est passé, c'est brisé. Tu sais juste que tu as un an à tenir, que tu vas tirer le meilleur parti. Alors, lui, du Paris Saint-Germain, parce que tu as l'exposition de la Ligue des Champions pour briller, pour que sa cote remonte, parce qu'on va rappeler que sa cote a quand même bien baissé. Et le Paris Saint-Germain, mariage de raison, parce qu'ils ont là un joueur qui est formidable. S'il peut leur marquer des buts, leur faire gagner des matchs, très bien. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, pour moi, c'est terminé. L'histoire est finie. Maintenant, c'est mariage de raison et de convenance.
Ouais, mais chacun son lit, on fait chambre à part et puis et on reste pour les enfants.
C'est ça.
Mais mariage de raison et de convenance, c'est de l'hypocrisie. Quand tu fais un mariage de convenance et que tu dis avec ta femme bon, on reste ensemble pour les enfants et tout ça, c'est de l'hypocrisie déjà.
Parce que t'as pas le choix.
C'est de l'hypocrisie.
Okay, t'as pas le choix.
Eh ben alors,
tu
dis un mot pour les supporters qui attendent que ça,
mais
pour faciliter les choses.
Rassure tes enfants.
Non mais s'ils le pensent pas, c'est comme si tu dis à tes enfants tout va bien entre maman et moi. Non mais personne n'y croit. Là franchement Neymar, je t'assure, je suis sûr, je comprends ce que tu dis Ludo. Mais s'il avait fait une sortie en disant oui voilà je m'excuse auprès des supporters, tout le monde aurait dit il est focu, il se fout de notre gueule, on n'y en croit pas un traître mot. Là, au moins, les choses sont claires.
Même si tu n'en crois pas un traître mot, il fait un pas vers les autres. Il fait un pas vers eux. Tu vois ce que je veux dire?
Ils n'en ont rien à foutre.
C'est
le démarre.
Non, ils n'en ont pas rien à foutre. Ils ont été vexés.
Mais c'est fini pour eux, ils s'en foutent.
Mais peut-être que c'est fini.
Et tant mieux.
Peut-être que c'est fini.
Et je ne te parle pas des footix qui
ont été vexés.
Match,
hein. Ça ne te coûte rien de leur dire un mot. Ça ne coûte rien de dire un mot.
Ça ne coûte rien. Moi, je dis, s'ils ne le pensent pas. Après, j'ai bien aimé la réaction du Cup. Sur le but notamment.
Ultra.
On va pas dire ce qu'ils ont changé, mais j'ai trouvé leur réaction tout à fait saine. J'ai aimé les chants pour Edinson Cavani, donc je les félicite. Je ne félicite pas les supporters parisiens qui ont déjà retourné leur veste et qui ont oublié comment Neymar a craché sur le Paris Saint-Germain pendant l'été.
On va écouter les supporters parisiens. Ça appelle au 32-16 évidemment pour réagir à ce retour sur le terrain de Ligue 1 de Neymar. Le PSG qui s'impose 1-0. On vient dans un instant avec Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak. Et puis n'oublions pas les drôles de dames également. Des énormes affiches. Leipzig, Bayern Munich, Juve,
Oui.
Pour la Juve, on a quelqu'un d'autre que Simone Rovera, hein. Tu nous rassures.
Écoute, il est en sursis, Simone Rovera. Il est, depuis qu'on l'a envoyé à Turin, eh bien, on est déçu. Ouais. Le mec était meilleur à 1200 km de Turin. Depuis qu'il vit à Turin, c'est plus le même rendement.
Les restos, les sorties, les plats de pâtes. L'hygiène de vie.
L'hygiène de vie, effectivement. Ouais, Simone Rovera sera avec nous également. Paulo Breitner, bien sûr, pour évoquer à 3 jours du retour de la Ligue des Champions, bien sûr, l'ensemble des résultats des gros matchs de Ligue 1. Neymar, on en parle dans un instant. La prestation du PSG, messieurs.
Ah, bah oui.
C'est ça qui est important également. La performance du PSG à 4 jours de la réception du Real Madrid.
Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce que Thomas Tuchel a voulu mettre en place.
Ouais, très inquiétant.
Mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est l'entraîneur, c'est les choix de l'entraîneur. Pourquoi tu fais cette défense à 4? Alors, on sait que t'as des absents, il n'y a pas de problème. Il te manque Mbappé, il te manque Cavani, Icardi vient juste d'arriver. Mais pourquoi tu t'entêtes avec cette défense à 4 qui te force à aligner Lévin Kurzawa? Pourquoi tu fais pas preuve d'un
petit peu plus d'originalité? On va parler de Kurzawa aussi, parce que
t'as des ressources au milieu de terrain, t'as quand même d'autres ressources devant. Je sais pas, essaye de jouer à 3 derrière, par exemple. T'as 3 défenseurs centraux qui sont valides là en ce moment. Bah, essaye de jouer à 3, propose quelque chose d'autre, parce que là, pour l'instant, la prestation de cet après-midi a été stéréotypée. Même si j'ai trouvé que Sarabia a été intéressant, notamment sur sa qualité de centre.
Moi, je trouve que le système en 4-2-3 le système en 4-2-3, c'était une bonne idée de départ. Pour animer le système avec Neymar en électron libre, deux mecs sur les côtés.
Moi, j'ai trouvé que l'animation était...
Comment les joueurs l'ont animé, c'est autre chose. Mais moi, sur le départ, quel intérêt de jouer à 3 défenseurs centraux quand tu sais que Strasbourg va venir dans ton camp 3 fois dans le match?
Ok les gars, on vient dans un instant. On est ensemble jusqu'à minuit, on a largement le temps de refaire le match du PSG avant le PSG Real Madrid mercredi soir 20h45 au Parc des Princes. Jonathan McCardy, Ludovic Obraniak, beaucoup d'appels au 32-16. Bien sûr, les drôles dames, le programme est dense et chargé, il est magnifique. L'after de l'élégance revient dans un instant.
RMC,
l'after foot. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Jonathan McCardy, avec Ludovic Obraniak, on est ensemble jusqu'à minuit. Fred Hermel, Julien Laurence, Simone Rovera, ou ce qu'il en reste en tout cas, et également Paulo Breitner sont dans les coursives, dans les coulisses.
La crème de la crème.
On a la crème de la crème, on a une heure de régal, messieurs.
La crème
on
va de la continuer. Crème et Simone.
Et Simone. Alors, je vais retiser ce qu'on a lancé il y a quelques instants sur la page de l'Afterfoot, page Twitter de l'Afterfoot. Voilà, il y a un défi, il y a un duel qui se profile. Vous connaissiez le duel Boubacaris, hein, ce sera dans quelques semaines en Suisse. On va organiser le duel Ludovic Obraniak, Jonathan McCardy, puisque.
N'estimez pas la force du
Polak. Ces deux hommes se chauffent à longueur de semaine.
Ne sous-estimez pas la force du Polak. Attention.
Le Polak.
Attention.
Ça chauffe ce soir, effectivement. On a lancé ça. Il y a un défi. Team McCardy, Team Obraniak. Qui couche qui dans un octogone. Ça régime.
Dans quelle règle? Octogone dans un ring?
Non,
tout est permis, les gars.
Non, pas d'octogone, des gants. Le noble art.
La boxe anglaise.
Voilà. Boxe anglaise,
les points.
Okay, boxe anglaise. Le sondage sur la page Twitter de l'Afterfoot. Team McCardy ou Team Obraniak. 200 votes pour l'instant. 56%. Voit Jonathan coucher Ludovic, 44% voit Ludovic coucher McCardy.
Attends, je vais dire pourquoi. Moi, je ne vais pas le coucher, Ludo. Allez, je fais 12 rounds et je le punis sur 12 rounds. Je le touche comme ça, avec mon jab dans le nez. Et comme ça, il mouche rouge pendant 2-3 semaines.
Ouais, tu vas voir,
je suis pas sûr. Je le punis. Moi, j'ai voté, les gars.
Et le polytechnicien, il va prendre un uppercut, tu vas voir.
Allez, le PSG, justement, on continue. Jérémy nous a appelé au 32-16. Salut, Jérémy, supporter du PSG.
Salut, Jérémy.
Bonsoir à vous.
Salut Jérémy.
Tiens d'abord, sondage, tu vois qui couche qui? Ludo couche Jonathan ou l'inverse?
L'inverse.
Jonathan, ouais. Qui... Ah d'accord, mais pourquoi?
Les gars, vous laissez pas enfumer.
Ça s'apprend pas.
Vous laissez pas enfumer parce que le mec commande du MMA. Arrêtez de vous laisser enfumer.
J'ai de la boxe, puis je suis petit, la technique ça s'apprend pas. Je te fais moucher rouge. Bon, excuse-nous.
Allez, on y va. Allez Jérémy. Ton sentiment, déjà avant d'évoquer la prestation, la performance du PSG à 4 jours de la réception du Real en Ligue des Champions, toi, quand Neymar a marqué son but, son retourné à la 92e, t'as réagi comment?
Très bien, ouais. Parce que avant siffler Neymar, je suis d'accord, mais pendant qu'il a le maillot du PSG et qu'il joue avec les couleurs de Paris, je suis pas d'accord. Parce que j'en ai vécu des moments de galère derrière la télé ou sinon même au stade en pleurer. Et de voir des joueurs comme ça qu'on a voulu tellement avoir, on en rêvait, les siffler comme ça, il y en a d'autres qui méritent plus que Neymar sur le terrain.
Qui ?
Après, je comprends tous les supporters de le siffler avant. C'est normal avec ce qu'il a fait, surtout qu'est-ce qu'il a dit plus tôt. Mais pendant que les couleurs du PSG, je suis pas d'accord.
C'est Jérémy. Tu prends le parti de placer le talent du joueur, le talent individuel, d'excuser certaines choses par rapport au respect du club. C'est ça, en fait, ta prise de parti. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain, t'es quand même un club qui est un grand club. Tu es un club historique du paysage footballistique français. Tu es une vraie institution. Et c'est pas un joueur.
Attends, Jérémy, reste avec nous. Vas-y, Jonathan.
C'est pas un joueur qui peut, ce qui est aussi talentueux soit-il, aucun joueur ne peut se permettre de cracher sur le club comme Neymar l'a fait. Alors que la réaction de certains supporters puisse paraître pour certains un petit peu excessive, on peut le comprendre, on peut l'entendre, mais moi je trouve ça totalement sain de donner une espèce de piqûre de rappel à un joueur qui a pas assez pris de fessé Cunioli, qui est Neymar en l'occurrence, de lui rappeler que il peut pas faire ce qu'il veut. Et je pense que Neymar, c'est ça en fait le drame de sa carrière. C'est qu'il s'est pas assez pris de claque. Il s'est pas assez fait taper sur les doigts. Mais je pense que c'est important qu'à un moment ou un autre, Neymar se fasse taper sur les doigts. Mais et c'est ce que le CUP notamment a
fait. Attends, Jérémy,
c'est très bien.
Ludo. C'est même pas une question de star, pas star.
Non, exactement. Voilà.
C'est même pas une question de ça, c'est une question juste, à un moment donné,
respect.
Que t'aies envie de partir. Mais tout le monde peut le comprendre que t'as envie de retourner à Barcelone. Pourquoi pas à
ton droit.
Pourquoi pas si t'as envie. Mais est-ce que t'as été dire sur le fait, pour essayer de créer une embrouille, de dire que ton meilleur souvenir c'est la remontada, ça par contre c'est vrai manque de respect. Il a été trop loin là-dessus.
Sur ça, et je suis moi, d'accord aussi.
Eh ben c'est sur ça. Les gens ils lui en veulent que sur ça.
Le sifflet avant, le huer avant, le cracher, tout ça. Avant,
toi tu penses que pendant le match,
vas-y Jérémy.
Pas pendant qu'il joue. Dès qu'il porte les couleurs de Paris, je suis désolé, c'était comme si tu crachais sur
attends.
Ça a déstabilisé toute l'équipe. À chaque fois, Paris jouait moins bien.
Attends, Jérémy, donc toi, tu penses que tu serais pour prendre le parti de le siffler avant le match, match, pas lors de la présentation, l'annonce des joueurs par le speaker, mais pas pendant.
Et je
ne
pardonnerai pas comme ça.
Franchement, je trouve que le public a été plus que clément.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'ils ont. Je m'attendais à bien pire, Jérémy. Bien pire.
C'est drôle quand même, mais dans l'ensemble, à part les virages.
Bien pire, je m'attendais.
Le reste.
Ils ont sifflé un peu. Ils ont sifflé un peu au début.
Ça a été nul au fur et à mesure du match.
Parce que le reste du public, c'est un public de footix. Qu'on soit bien clair, dans les virages, c'est des vrais supporters. Le CUP, bravo encore à eux. Mais la majorité du Parc des Princes, malheureusement, il y a une partie du Parc des Princes qui est peuplée par des gens qui viennent voir un spectacle. Il faut dire ce qu'il y a.
Ils ont été très intelligents de dire on prône l'indifférence.
Il a été applaudi un peu quand même pendant le match. Hein.
Alors là, j'ai pas
quand il y a le but, il y a quand même une partie du public qui l'a applaudi, les gars.
Le Parc se lève en grande partie.
Les Parisiens aiment bien dire, la clim. Le virage, c'est carrément.
Ce garçon, j'ai quand même un peu de mal. Enfin, je sais pas que j'ai du mal à lui en vouloir, mais quand je vois son entourage, quand je vois son père, honnêtement, bravo à la banderole qui a été mise, ce qui a été mis sur son père.
Ah, sur son père.
Je trouve que ce mec et tout ce que je déteste dans le football, c'est le cancer du football. Ce type.
Ça a l'air malsain.
C'est pas un père. Ils ont raison. C'est pas un père, c'est un Mac. C'est pas un père, c'est un Mac. Il se ramène, il est culotté encore. Il se ramène au parc avec grand sourire. Et je trouve que cet homme est d'un culot incroyable
Il y a encore 5 jours. Et quand je sais dans le sens d'un départ de son fils au Barça.
Quand je sais l'influence qu'un père peut avoir sur son fils. Honnêtement, Neymar, c'est pour ça que avec Daniel on en discutait hier soir. Je disais, Neymar, peut-être, il a peut-être droit à une seconde chance aussi. Parce que quand on voit son entourage, ce garçon, j'ai pas l'impression qu'il soit très aidé non plus à faire les bons choix. Et quand ton père, il est omniprésent comme ça, il te met une pression aussi qui est terrible.
Non, mais il se sert de son fils comme d'un objet pour faire de l'argent. C'est ça, en fait, qui est assez triste et assez malsain dans toute cette histoire. Parce que Neymar, on l'a crépi par rapport à son comportement, mais dans le fond, je pense pas que c'est un mauvais garçon.
C'est pas un mauvais
garçon. Je pense que juste que c'est un garçon qui manque de repères, qui est très mal conseillé et qui est, il faut le dire, une marionnette, aussi talentueuse soit-elle, mais c'est une marionnette.
Il en
joue
aussi, les garçons. Attendez, il faut pas non plus le déresponsabiliser.
Non,
il est
son libre arbitre. Mais si tu veux, ça aide à dire, bon, allez,
ce garçon, il a peut-être droit à une seconde chance. S'il fait preuve de remords, s'il fait preuve de plein de choses, peut-être.
Il a le droit aussi à,
il était sur le chemin, là, de la rédemption.
Merci, Jérémy, d'avoir appelé au 32-16. Excellent soir à toi. Ouais. Mamad nous a appelé également au 32-16, au standard, ça appelle beaucoup.
Mamad Niang?
Non.
Mamadou.
Mamad?
Mamadou.
T'es avec nous?
Ouais, salut, ça va?
Salut, Mamad.
Salut, Mamad.
Ouais, salut. Ouais, j'appelle pour parler de Neymar. J'ai écouté la réaction de l'auditeur avant.
Ouais, Jérémy,
à
vas-y.
Paris, à Paris, dans tribune latérale, ils ont vraiment la mémoire courte. Hein. Mm. Un joueur qui vient, qui est adulé comme je sais pas quoi, qui a des privilèges. Le mec, il marque un but, il vient chambrer devant le virage. Et en plus de ça, à la fin, il fait une déclaration au média, aux supporters. Excusez-moi. Il dit, je suis désolé, qu'il reconnaisse son erreur. Non, il ose dire... Après chaque match, ouais, je vais jouer à l'extérieur. Ouais. Le mec, c'est vraiment qu'il se fout de la gueule de Paris. Ouais.
Il dit, Mamad, je vais jouer tous les matchs à l'extérieur cette saison, entre guillemets, je ne serai pas soutenu ici. Attends, c'est intéressant ce que tu racontes, Mamad. T'as eu le sentiment, toi, que t'étais au parc ou pas?
Ouais, j'étais au parc.
T'as eu le sentiment qui vous a provoqué après son but?
Après son but,
j'ai pas eu le sentiment là.
Oui, moi. Il nous a regardé. Et là, on a vu toute la tribune, on a vu tout le Parc des Princes. Il y en a beaucoup qui ont fêté son but. Alors c'est qui l'a insulté, ça c'est n'importe quoi. Le mec il crache sur Paris, il a des privilèges, il blesse à chaque moment où c'est le carnaval. Le mec il marque deux buts, on lui dit les supporters désolé. Non, le mec il en rajoute une couche, il est vraiment con. Pour son père, la banderole qui est sortie, elle est parfaite parce que son entourage aussi l'aide vraiment pas.
Mais t'es d'accord avec Ludo hein, finalement, effectivement sa communication, certains disent qu'elle est bonne. Roland Courbis disait ça. Moi, je pense que
les navrantes.
T'as marqué, c'est bon.
Navrante.
Tu commences doucement à reconquérir certains cœurs du Parc des Princes. Dis pas, je vais jouer tous les matchs avec.
Il aurait
pas
le moment. Il aurait
ça ne sert à rien.
Non, mais
de
dire ça. J'ai pas dit que c'était bon ce qu'il avait dit. Moi, pour moi, l'idéal, la bonne communication, ça aurait été de ne rien dire et de continuer à faire ses preuves sur le terrain. Parce que de toute manière, la relation est brisée au point que il y aura pas de rédemption. Mais au moins, l'acte de contrition, ça se fera avec des buts importants de marquer. Et c'est pas en parlant.
Non, faut l'ignorer. Là, il mérite que l'union.
C'est ce que proposait Ludo hier.
Le premier match, après, dès qu'on a vu au Parc des Princes, faut l'union qui marque un but, fin d'histoire. On va pas le siffler. On va pas le siffler. Ignorons, c'est le mieux.
Mamad, au-delà de Neymar, t'as pensé quoi de la prestation globale du PSG? Ça a été compliqué, hein, victoire à la 92e.
Ouais, c'est compliqué. Hein. Espérons qu'ils vont monter en puissance, parce que là, c'est compliqué. Hein. Gagner 1-0 à la 92e minute. C'est compliqué.
Okay. Strasbourg a eu des opportunités en plus. Navas a fait un grand match. Navas a fait un très bon match.
Navas,
sauf
voilà.
Sur Ajor.
Voilà enfin un grand gardien qui a deux arrêts importants à faire dans le match.
Ajor, ouais.
Et qui tu les fais avec une classe.
Parce que sinon, Strasbourg voilà, c'est sur ces deux vraies belles occasions de marquer au parc. Donc la défense a pris
aussi que Matt Sells, qui n'est pas Navas. Mais qui a sorti un match aussi de haute volée. C'est un des très bons gardiens de Ligue 1.
Sur Navas, une première parade en Ligue 1, horizontale, là, sur la frappe d'Ajorc, exceptionnel.
Sur Navas, il y a
90% des gardiens qui sont battus là-dessus.
Ce qui est intéressant, c'est la sérénité aussi qu'il dégage dans ses prises de balles. Tu sens que voilà, c'est un vrai leader de par rapport à la défense. Et là, cette chose-là, on l'avait pas avec Alphonse Areola. Donc, c'est une vraie plus-value pour le PSG. Après, en termes de jeu et de qualité de jeu, il y a beaucoup de joueurs. Alors, est-ce que c'est parce que t'as déjà en tête la première échéance de Ligue des Champions qui arrive? Est-ce que c'est parce que tu penses à pas te blesser pour la Ligue des Champions? Mais je sais pas, mais la prestation a été indigente et à ce moment-là.
On va en parler de la prestation voilà. Ou pas?
Vas-y, on a un peu de temps.
Non, parce que.
Pas de certains joueurs également, de Sarabia notamment.
La prestation, j'ai envie de te dire, heureusement pour Thomas Tuchel qu'il y a l'affaire Neymar. Parce que si on se concentre réellement sur ce match-là, Paris a joué sans idée, sans rythme, prévisible. Désorganisé.
C'est le Paris de la fin de saison dernière,
la
qu'on
perte,
voit.
Écoute-moi bien, à la perte du ballon, si Strasbourg avait joué un peu mieux les coups, et peut-être que s'il y avait eu Nuno Da Costa sur le terrain un peu plus tôt. Et
énorme occasion d'Ajorc, en fin de match.
Je peux te dire qu'ils ont été, des fois, perte du ballon, 7 éliminés, retour en marchant. Dans la possession du ballon, pour déstabiliser cette défense à 5, ils n'ont fait que faire tourner la balle de gauche à droite. Jamais de créativité, jamais de jeu à deux sur les couloirs, aucune complicité. Di Maria, Sarabia, ils ont été inexistants, toujours rentrés à l'intérieur. Ça a été prévisible. À chaque fois, Mitrovic, Kone et comment il s'appelle
Djikou.
Djikou, on serrait l'axe. Mais ça a été. franchement, il n'y a rien à retenir de ce match-là, si ce n'est la volée géniale de Navas.
Excellent. Et là, ce qui m'a inquiété, c'est le milieu de terrain. Et alors, c'est pas parce que ça avait marché deux, trois fois au cours de la saison, mais j'ai toujours du mal à voir la complémentarité entre Verratti et Gueye, surtout dans un milieu à deux. Pour moi, ça saute pas aux yeux.
Non, mais je pensais que Gueye, en arrivant là, allait justement compenser un peu ces moments de déstabilisation quand le PSG a la balle et qu'il la perd. Je pensais qu'il allait, lui, l'expérience de pouvoir justement savoir où. Et force est de constater que Paris s'est fait transpercer à maintes reprises. Si Strasbourg joue mieux les coups, Paris doit peut-être perdre ce match ou au moins pas le gagner.
Je rappelle, il y a une occasion d'Ajorque à 0-0 en fin de match. Oui, il est seul face à Navas.
Même en première mi-temps.
Il croise passer sa frappe. S'il marque, voilà.
Enfin, mais c'est surtout par rapport à Gueye, c'est par rapport au profil d'Idriss Gueye. La qualité première d'Idriss Gueye, pour moi, c'est que c'est un joueur au milieu de terrain. Il casse des lignes, il prend le ballon, il est percutant. C'est un vrai box-to-box. C'est pour ça qu'il était comme un poisson dans l'eau en Angleterre.
Il l'a fait une fois dans le match. Et c'est sur l'occasion d'Icardi. Où il manque un peu de spontanéité.
Par rapport au style de jeu du Paris Saint-Germain, je vois pas en quoi tu avais vraiment besoin d'un milieu de ce profil-là. Tu avais plus besoin d'un joueur profil. Tu avais besoin d'un profil type Thiago Motta, qui lui était capable de couper les ballons et d'assurer une première relance de très bonne qualité. Mais je pense que c'est une idée reçue de dire que Gueye est capable justement de couper les ballons en phase de transition défensive.
Et quand Herrera et tu as plus besoin de ce type de joueur-là,
Herrera est rentré,
il a tout de suite distillé des ballons, ça a tout de suite été beaucoup plus fluide. Parce qu'il a cette capacité aussi à faire jouer les autres.
T'as pas besoin dans le style du Paris Saint-Germain, un milieu de terrain comme ça que tu mets bas sur le terrain, qui a un style de jeu dans la percussion. Je trouve pas ça évident en termes de voilà de.
Quand tu joues Strasbourg à un attaquant comme ça, ta charnière à deux contre un, ça doit être largement suffisant pour gérer ce qui doit l'être. Paris a eu la possession du ballon la plus grande partie du temps. Je sais pas si on regarde les stats, je crois que ça doit être 70-80% du temps. Tu as donc besoin pour débloquer la situation et trouver des failles dans une défense à 5 hyper regroupée, t'as besoin de créateurs. Alors certes, t'as Neymar, sauf qu'ils ont compris qu'en étant seul à 3 sur Choupo-Moutin, il y en avait un qui sortait sur Neymar. Neymar est venu se coller à Choupo-Moutin quasiment en deuxième attaquant pour se donner de la liberté de décrochage. Mais si il y a personne pour alimenter les côtés, que Sarabia et Di Maria sont dans l'axe constamment, que les latéraux montent pas pour apporter le surnombre.
À la décharge de Di Maria et de Sarabia, parce que moi j'ai trouvé quand même que Sarabia, sa qualité de centre, elle est intéressante, mais à la décharge de Sarabia et Di Maria, ils ont pas du tout aidé par Dagba pour Di Maria et par Kurzawa pour Sarabia. Parce qu'il y a plein de phases de jeu où on voit Sarabia qui s'infiltre sur le côté, qui attend le dédoublement de son latéral, et t'as Kurzawa qui est totalement aux fraises ou qui lui met pas la balle.
Kurzawa, c'est incroyable qu'il soit encore au PSG et c'est incroyable qu'il trouve encore du temps de jeu au Paris Saint-Germain. Il n'a rien fait de bien ce soir. Tiens, sur hashtag RMC Live, Alexis75014 écrit: la prestation parisienne a été catastrophique. Heureusement que Neymar marque ce but. Kurzawa était nul. Kipembe depuis le mondial est porté disparu. C'est vrai.
Bon, il a joué 20 minutes.
Ouais, mais bon, il joue plus. Bah, reste Icardi et Navas qui, pour leur premier pas, ont été bons.
Je préférerais voir Kimpembe arrière-gauche,
bien sûr,
que Kurzawa.
Et vous savez que j'aime pas, je suis pas grand fan de Thomas Meunier, mais je vois pas ce qu'il a de moins que
là, y a un problème.
Quoi. Franchement,
pour laisser Thomas Meunier sur le banc,
il a certainement beaucoup. Il a beaucoup de potentiel, hein, comme
on a priori, j'ai l'impression que Thomas Tourelle n'aime pas cet homme-là et ce joueur-là. Thomas Tourelle avec Thomas Meunier, beaucoup de réactions. Ah, ça réagit beaucoup à notre également combat organisé entre Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak.
J'ai pas envie de mettre. Ouais, mais.
Si, ça réagit beaucoup. Bon, ça évolue, hein. Il vous reste 45 minutes pour savoir.
Ce que je vais te mettre.
Donnez votre avis. Les gars, on va l'organiser parce que là, on parle, mais.
On peut faire ça un samedi matin.
On filme ça, on prend les caméras samedi matin. Sport.
Ouais, enfin, vous chauffez. Toi, tu t'entraînes quotidiennement, faut que je m'entraîne d'abord. Hein.
On va laisser un peu de temps.
Je t'entraîne moi pour que tu me casses la gueule.
D'accord.
Ça réagit énormément pour l'instant. 500 votes. Ludovic Obraniak remonte. Qui couche qui? 53% Team Macardy, 47% Team Obraniak.
Mais moi je le couche pas. Ça. Je le prends sur 12 rounds et je lui fais mal sur 12 rounds. Je le pam avec le jab, je le pique, je le détruis comme
le
ça.
Le Gosbo sur hashtag RMC Live dit: hey, John, attends, si tu boxes comme tu joues au foot, c'est ce que je pense.
Ah bah ça c'est sûr.
Jette l'éponge, mec.
Il a raison.
Jette l'éponge, mec, dès maintenant, ça t'évitera de gros bobos.
Les gars, regardez sa rentrée au match de l'after et comment il se déplace et vous allez comprendre.
Je pense que Ludo, sur un ring face à moi,
vous allez comprendre. Stop. Les pans canards.
Comment les gars, il vous reste 45 minutes, un peu moins 40
Ludo
minutes.
Sur ring, c'est pire que moi.
L'after jusqu'à minuit. Et ça y est, ils vont entrer en coulisses les uns après les autres sur le plateau. Je parle pas de vous, messieurs, je parle de Fred Hermel, dans l'ordre. Simone Rovera, Julien Laurence et également Paulo Breitner. Ce sont les trois quarts d'heure, les drôles de dames. Elles arrivent, à tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan Bacardi, on est ensemble jusqu'à minuit bien sûr, après le débrief du PSG Strasbourg. Voici l'heure des drôles de dames, elles vont se succéder. On aura la totale messieurs, 100% de drôles de dames à présent. Pourquoi ? Parce que dans 4 jours, le retour de la Ligue des Champions sur RMC Sport 1. 3 clubs français en phase de poule, je le rappelle. Tiens, on va donner le programme notamment pour les clubs français. Mardi soir, 18h55, Lyon reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur hier 1-0 le Zénith, leader du championnat russe. À 21h, ça c'est un match pour Ludo Bragnac, Ajax Amsterdam, Lille Olympique Sporting Club.
Et vivre ça avec beaucoup beaucoup d'attention.
Oui, ils vont se faire bousculer tes Lillois sûrement. On verra hein, mais il y a des coups à jouer hein,
et
en
si
contre.
Et si c'était pas eux qui les bousculaient,
peut-être. Et le lendemain, bien sûr, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Justement, qui dit Real Madrid dit Liga, dit Fred Hermel. Bonsoir Fred Hermel.
Hola chicos.
Salut Fredo.
On va parler comme ça,
va,
tu vois ce soir.
Ouais,
ta voix suave Fred. Fred, avant de démarrer et de revenir sur la victoire du Real et du doublé de Benzema, 4 buts en 4 matchs Benzema, brillant cet après-midi. On a lancé un sondage Fred sur un duel boxe anglaise, Ludovico Bragnac, Jonathan Bacardi. Beaucoup de votes sur la page Twitter de l'Afterfoot. Tu devrais choisir, mettre une pièce sur un des deux. On va le faire, hein, réellement.
La force du Nord, Fred.
La force du Nord, la Pologne ou Jonathan?
Non, mais sérieux. Enfin, moi, je suis obligé. Enfin, désolé, Jonathan, mais tu vois, même si les Lillois, solidarité ch'ti, c'est pas possible autrement.
Si tu peux miser de l'argent, tu perdrais.
Ouais, mais tu sais, mais moi, je les connais, les Lillois. Oui. Ils sont vicieux, tu sais.
La boxe, ça, on sait que t'es vicieux. Ça, on sait, t'inquiète pas. Non, mais la boxe, c'est de la technique. C'est de la technique, c'est tout.
Bah, enfin, faut quand même taper fort aussi, hein. Je veux dire.
Mais moi, je veux pas le coucher.
Moi, je vote pour Ludo.
Je veux pas mettre. Okay. Je vais le briser artistiquement sur 10 rounds.
Le Real Madrid s'est fait peur. Le Real a gagné 3-2 aujourd'hui à Bernabéu face à Levante. Une des bonnes équipes hein, de ce début de saison en Liga. Oui. Doublé de Karim Benzema. Un but de Casemiro. C'est parce que Benzema a été fort aujourd'hui.
Oh là là. Je sais pas si vous avez vu le match, mais à ce niveau-là,
il a été énorme. Énorme.
Énorme. Enfin, mais tout est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une erreur. Non seulement il y a le doublé, mais enfin il y a aussi un poteau, il y a aussi une reprise en pivot avec une sortie aérienne du gardien, on ne sait pas comment il la détourne. Il y a aussi les choix tout le temps judicieux, les passes qu'il fait dans les petites, les grandes, les longues. Enfin c'est un homme qui n'a plus rien à prouver à personne. C'est comme si, tu vois, vous connaissez cette chanson merveilleuse de Michel Fugain, chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain.
Et ben c'est Fred.
Benzema, c'est joue au football comme si tu ne devais plus jamais jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a plus rien qui le retient aujourd'hui, Benzema.
Fred, tu sais.
Il a plus, je sais pas, c'est comme s'il n'y avait plus aucune pression, plus rien. C'est le type qui est tellement sûr de lui.
C'est vrai qu'il y a un relâchement dans son jeu.
Ouais.
Voilà.
Il y a un relâchement positif.
Oui, positif. Un relâchement, une détente également.
Il y a un truc qui m'a marqué beaucoup, et je sais que tu l'as vu et que tu as sûrement participé, Fred. Le documentaire qui est sorti sur lui,
on a travaillé. C'est un gros travail d'équipe, ouais.
Et je comprends pas. C'est la première fois pour moi que ça m'est apparu clairement, que les choses me sont apparues clairement de sa bouche en fait. Où il a enfin avoué, il a souvent tourné autour du pot en disant qu'il était le mec. Il a dit clairement, voilà, on est arrivé, quand j'étais au Real, le numéro 1 c'était Cristiano. Voilà. Et j'avais comme rôle de faire marquer Cristiano. Ça n'a jamais été aussi clair, il a toujours tourné autour. Et du coup, quand Cristiano part, et ben c'est moi qui prends la place, c'est moi le buteur. Ben voilà. Coup, tout apparaît beaucoup plus clair pour beaucoup plus de gens sur son soi-disant manque d'efficacité, le fait qu'il soit trop altruiste. Voilà, c'est simplement qu'on lui a demandé de faire briller le buteur numéro 1.
Mais quand tu viens au Real Madrid et que tu veux jouer,
il l'a jamais expliqué comme ça.
Vas-y Jonathan.
Ça fait combien de temps Fred déjà qu'il est au Real, Benzema?
C'est sa 11e
saison. Le nombre de fois où on a dit en début de saison que Benzema c'était peut-être l'année où il allait aller sur le banc. Là avec toutes les recrues qui sont arrivées sur le mercato.
Mais Fred, tu l'as dit aussi qu'il allait avoir de la concurrence au Real pour Benzema cette saison. Tu l'avais dit ça en fin de saison dernière.
Oui, non mais de la concurrence dans le sens où l'an dernier il y avait personne. Là, il y a Jovic.
Mais même Lucas Jovic, il n'existe pas.
Mais Jovic, tu le prends pour préparer l'avenir.
Iguain,
ça sera le successeur. Non, puis
Karim, il ne peut pas jouer tous les matchs. Il ne peut pas jouer 80 matchs dans la saison. Enfin, c'est normal que Karim, par exemple, il est sorti à la 85e parce que, tu sais, 5 minutes parce qu'il joue mercredi au parc. Donc, Benzema, il est tellement titulaire incontournable qu'il y a plein de matchs que Karim ne va pas jouer, tout simplement.
Mais il a eu Iguain.
Il a 32 ans et qu'il faut qu'il se repose un peu aussi.
Il a eu Iguain, on lui a mis Morata. À chaque fois, on lui a mis des avancantes dans les pattes. Au final, c'est toujours lui qui a joué. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le mec, il a, en plus d'être bon techniquement, d'être un footballeur magnifique, c'est que dans la tête,
je trouve que physiquement, il a aussi beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il est affûté comme jamais.
Là, c'est sûr.
Mais il a changé ses méthodes d'entraînement parce que c'est hyper important d'expliquer.
Il est hyper fit.
Et tu regardes Cristiano Ronaldo, c'est pareil. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, ces joueurs-là font beaucoup de travail de développement musculaire pour avoir plus de puissance. Mais à partir de 30 ans, ça, Ludo, tu le sais, à partir de 30 ans, tu dois perdre en gros 1 kilo par an.
Et après 35 ans,
mais le problème, c'est que si, comme tu dis, si tu continues, salopard. Non, mais c'est vrai, Fred a raison. Le problème, c'est que faire de la muscu, tout ça, tous les jours, c'est que tu prends en volume musculaire. Or, le muscle, c'est du poids supplémentaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a toujours paru un peu. Autant on l'avait connu à Lyon, virevoltant, parce qu'il était,
il était presque
au poids où il est là actuellement. Exactement. C'est-à-dire qu'il est, il doit avoir un taux de masse graisseuse là qui doit être ridicule.
Je vais même vous dire, des amis, c'était quoi, il y a à peu près deux ans où il a changé sa méthode de travail, où il fait plutôt du gainage, en fait, il fait plutôt du
renforcement. La pliométrie, ça s'appelle.
Comment, pardon?
De la pliométrie.
La pliométrie, bon
ben non, la pliométrie, tu prends c'est le travail des gens.
Isométrie, non, de la pliométrie. Non, en fait,
je le vois dans sa gestuelle, il a gagné en souplesse.
Bah voilà,
il est beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien. Il a gagné. Il doit travailler beaucoup sur les étirements, sur le voilà.
Parce qu'il se protège, parce qu'à son âge, il est blessure musculaire, il est plus explosif, il est moins puissant mais plus explosif. Ouais. Il se sert de son corps d'une autre manière. Mais j'insiste beaucoup sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec la petite chanson, c'est que voilà, il n'a plus rien à prouver à personne, donc il est libéré totalement. Et ça, avec l'hygiène de vie qu'il a, en plus c'est un père comblé, enfin il y a tout ça, que qui est installé dans sa vie. Je révèle rien, tu regardes son Instagram, il y a toujours des photos de sa fille, de son fils. C'est un homme heureux et qui profite de ce métier de footballeur. Et sincèrement, vu comme il est là, la fin de carrière de Benzema, on la voit pas encore.
11e saison au Real Madrid, 32 ans.
Il a encore le temps, au moins.
Il peut encore faire 3 ans, 4 ans au Real. Fred, l'autre événement de ce match, cette victoire du Real, c'est l'entrée en jeu, la première de Eden Hazard, sous le maillot du Real Madrid. Il est entré à la 59e à la place de Casemiro. Tiens, t'as récupéré la réaction de son coach Zidane. Déjà, dithyrambique à la rencontre, enfin, pour l'international belge. Écoutez.
Et puis après pour Eden, moi je suis content pour lui parce qu'on voit que c'est un tueur quand il a le ballon. C'est quelqu'un qui est agressif avec le ballon, qui va toujours en vertical et ça, il va nous faire du bien de toute façon. Il est pas prêt, c'est pour ça qu'il a pas joué maintenant. Il a fait 4 entraînements avec l'équipe. Ramez, machin, quand on va être tous bien physiquement, tous bien dans le rythme, on va faire du mal. De toute façon, c'est ce que j'espère et c'est ce que je veux de mon équipe en tous les cas.
Donc là, Zidane nous explique que quand ça va tourner, quand tout le monde sera en forme, ça va faire très mal le Real.
Bah, sérieusement, quand tu regardes la première période, tu te dis que s'ils font ça sur 90 minutes, je vois pas qui peut les battre, quoi. Parce que c'était vraiment bien, quoi. Vraiment. C'était vraiment.
Il y avait 3-0, on le rappelle.
Les deux buts, c'est quoi? C'est un relâchement? C'est quoi?
C'est le même le problème.
C'est l'éternel problème.
C'est qu'il y a des absences psychologiques, des absences défensives, de concentration qui sont insupportables. Que le Real Madrid. Attendez, il y a une main extraordinaire de Thibaut Courtois à la 93e minute quand même, qui aurait été un but synonyme du 3-3.
Et oui.
Mais alors que le Real a fait un match. Une première période grandiose où il domine tout. Donc il y a un vrai problème de relâchement défensif. Et Zizou, alors on ne peut pas mettre tout ce qu'il a dit parce que la conférence de presse a duré longtemps, mais lui, ce qui l'énerve, c'est lui dit on est capable de jouer bien au milieu, devant, derrière, offensivement, défensivement pendant 45 minutes. Mais pourquoi on n'est pas capable de le faire 90 minutes?
Mais
il y a des relâchements. Je voudrais qu'on parle de Hazard.
Attends, justement, deux secondes. C'est lié. C'est peut-être que l'équipe, moi, enfin, se font quand même faire sortir Casemiro pour Hazard, c'est quand même un petit peu risqué comme choix.
Non, mais Casemiro était fatigué.
Ah, mais même
Casemiro, il arrivait dans la nuit de jeudi à vendredi
de sélection
avec le Brésil. Il était crevé.
Ouais, mais même, du coup, au milieu, t'as qui pour récupérer les ballons, pour protéger ta défense?
Non, mais là, à ce moment-là, ça faisait 3-0, hein, ou 3, ça faisait 3-1.
Eh ben, ça
même,
explique
hein.
peut-être pour bon,
les gars, là aussi, Hazard, tu l'as trouvé comment?
Hazard, alors. On sent qu'il n'est pas encore dans le rythme, on sent qu'il n'est pas encore dans son poids de forme, comme on dit, dans le poids idéal. Mais dès qu'il touche le ballon, bah, voilà. Ils connaissent un peu le foot à Madrid. Bon, il y a déjà eu quelques petits applaudissements, quelques petits olés. Tu dis, bah voilà, tu sais que le mec, il est intelligent. À un moment, il fallait garder le ballon. À un moment, il fallait provoquer une faute. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est un joueur mûr, intelligent, qui, quand il sera bien physiquement, il va être extraordinaire. Et puis surtout, une chose qui est déjà flagrante, c'est son entente avec Karim Benzema. Voilà, tu sens que ces mecs-là, ils pensent la même chose du football. Donc, il est encore loin de il est encore loin de son niveau, Hazard physique, mais techniquement, déjà, on voit qu'il va être à l'aise dans ce club ultra technique et dans cette Liga ultra technique.
Ouais. Fred, un mot très rapide sur le Barça également. Ludo, tu voulais parler de Reja sur Hazard?
Non, mais on en salive d'avance.
C'est-à-dire
que tu vois sa relation, même avec au-delà de celle avec Karim, celle avec Ramès. Mais tu sais Fred, je sais pas si t'as vu les images. Quand il est rentré en jeu, je crois qu'il a en fait, le fait de venir au Real, il avait pas vraiment mesuré la dimension de ce que devait être le Real. Tu vois, le fait qu'il arrive avec quelques kilos en plus, machin. Quand il est rentré sur le terrain, c'est la première fois que je le vois pas détaché, mais justement, un peu surpris, tu vois, presque lui qui est souvent, il a une telle confiance en lui, je l'ai senti presque un peu timide, tu sais, impressionné, je l'ai senti j'ai pas senti la confiance qu'il avait d'habitude, donc ça veut dire qu'il avait pas mesuré l'ampleur de ce qu'est le Real de Madrid.
C'est un rêve pour lui.
Et là, maintenant qu'il a compris, attention, ça va piquer les
armes. Fred, rapidement, le Barça s'impose 5-2 face à Valence. Fatih, incroyable Fatih.
En dessous Fatih,
16 ans.
Il y a trois matchs. Il est le deuxième plus jeune joueur à entrer en Liga de l'histoire du Barça. L'autre jour, il est le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à marquer un but en Liga. Et ce soir, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga de tous les clubs à mettre un but et une passe décisive dans un même match.
Donc il a deux buts.
16 ans, il est junior. Il est même pas dans l'équipe B. Il est en Roubaix-Lille. Il est chez les juniors. Non, mais ce petit gars, il est extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il fait titulaire? Pourquoi il débute ce soir?
Parce que Messi est
simplement parce que Messi est toujours blessé. Suarez est rentré,
il est
bien sûr. Dembélé est toujours blessé. L'attaque c'était Griezmann, Carles Pérez, Ansu Fati. Donc on était qu'avec des jeunes.
Et comment le match de Griezmann, Fred?
Très utile, très utile. Alors il faut connaître un peu le foot pour apprécier, mais très utile pour les autres. Il participe à deux buts. Voilà. Valence, dommage, et on verra en Ligue des Champions. Ça va être intéressant pour
Gamero a marqué pour Valence.
Fred, simplement, par rapport à Lille.
Très court.
Valence, le président est en train de détruire ce club. Oui, ça s'est vu ce soir. Il y a un coup à jouer pour Lille.
Bienvenue Célades, le pauvre Célades. Merci Fred.
Merci Nicolas.
Bonne soirée.
Ciao. Dortmund, Borussia, Barça, mardi soir à 21h. Ça va être un régal. Ça peut être énorme. Le Borussia, vainqueur 4-0 du Bayer Leverkusen, cet après-midi. La Serie A. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Imaginez un 0-0 entre Borussia et Barcelone et l'Inter qui gagne. C'est déjà première en championnat et première en Ligue des Champions.
Il est bon celui-là.
C'est fou.
Quelle entrée soignée. Simone, beaucoup des affiches en Serie A cet après-midi. Rapidement, la Fiorentina Juve qui a accouché d'une souris 0-0 à la Banda Ribéry face à la Juve. Pourquoi la Juve n'arrive pas cet après-midi?
Pas un sourire, là, elle a accouché beaucoup de choses, mais on peut dire que pas de bien belles choses pour Maurizio Sarri, parce qu'il y a eu trois blessés. Donc Douglas Costa, Pjanic et Danilo qui inquiètent, surtout Douglas Costa devrait être out pour l'Atlético. On a des joueurs qui sont pas très contents. Dybala et Rabiot sont restés 90 minutes sur le banc des touches. Mais quand tu as trois changements obligés, dont ton premier mi-temps, c'est impossible. T'as un Juve qui joue mal, t'as un Juve qui s'est fait bouffer plusieurs minutes, et la Fiorentina est vraiment supérieure, qui a plus d'occasion, et qui peut regretter vraiment d'avoir pas gagné ces matchs, parce qu'une Juve comme ça, c'est la pire de la saison. Et on a vu un pas en arrière en rapport au 4-3 pyrotechnique magnifique de la journée dernière face au Napoli.
Toujours pas d'Adrien Rabiot. Incroyable.
Bah, en vrai, Maurice Sarr a expliqué aujourd'hui, Mélez Matuidi est meilleur à faire le travail qu'il faut sur ses couloirs, c'est-à-dire à couvrir
Alexandre
Cristiano Ronaldo. Non, Cristiano Ronaldo, il travaille pas derrière, c'est-à-dire si tu as besoin de quelqu'un pour faire le travail pour deux, c'est vrai qu'il y a aussi Alexandre sur ce côté-là. Donc aujourd'hui, Matuidi, même s'il a fait un match compliqué lui aussi, parce que quand même la Fiorentina, on le voyait courir beaucoup plus de la Juve, et la Fiorentina aujourd'hui avait 6-7 joueurs nouveaux. Donc si la Juve, on peut dire, est en train de changer des visages, changer des peaux, la Fiorentina est en train de se reconstruire à zéro presque. Donc il n'y a même pas trop l'excuse, oui la Juve c'est tout nouveau, la Fiorentina c'est encore plus nouveau et a fait un très beau match.
Donc, comment Ribéry, tu l'as trouvé comment?
Pour moi, c'est le meilleur sur le terrain.
Excellent.
C'est vraiment excellent. 60 minutes de très bonne qualité. Si le match s'était pas joué à 15h, mais à 20h45, je pense qu'il aurait pu faire même 80 minutes de grande qualité. Petit truc, ça me fait vraiment rire, parce que la Juve et Maurizio Sarri étaient en difficulté physique. Et Sarri a dit, mais il y a un joueur 15h, il y a 35 degrés. Oui. Sauf que c'est la Juve qui a demandé d'ici à Noël de jouer 5 fois entre 15h et 12h30 pour favoriser les marchés asiatiques. Ouais. Donc...
voilà pour la Fiorentina Juve. Autre gros match en Serie A cet après-midi, c'est pas l'Inter, hein. C'est Napoli qui s'impose face à la Sampdoria, 2-0, doublé du Belge Dries Mertens. Le Napoli qui affrontera Liverpool mardi soir à 21h.
Simone, est-ce qu'on a refait les vestiaires à temps?
Ils ont fini, on m'a dit qu'ils ont fini hier soir, donc c'est pour ça que Carlo Ancelotti n'était pas très content, c'est-à-dire il y a deux jours, les travaux n'étaient pas encore terminés, là ils ont fini vraiment à la bourre, c'était très beau, très propre, l'image qu'on a vue c'était magnifique, mais il faut dire que Carlo était plus content pour les buts de Mertens, parce que Naples finalement n'a pas encaissé des buts, même s'il a eu des petites défaillances derrière, un peu mieux.
Pourquoi c'était Maximovic et pas Manolas?
Parce qu'il est rentré fatigué de la sélection et que quand même il voulait pas épuiser trop certains joueurs parce qu'il y a Liverpool qui arrive et les trois devant de Liverpool n'ont pas besoin de présentation.
Alors là, qui est leader de la Serie A?
Pour l'instant, c'est l'Inter, mais attention, lundi soir, Torino va jouer à domicile face à Lecce. Je pense qu'il y aura Torino et Inter seul devant. L'Inter qui doit remercier encore une fois celui qui fait une entame des saisons extraordinaire, qui est Stefano Sensi, qui arrive de Sassuolo en sachant qu'il sera un bon joueur de milieu. Mais il arrive à s'imposer, c'était un bon joueur à Sassuolo, mais il arrive à être très très bon à l'Inter. Extraordinaire pour moi en sélection, on l'a vu face à la Finlande. C'est la vraie bonne surprise de ses débuts de saison. Par contre, j'ai trouvé pas extraordinaire Godin qui revient des blessures. Donc après, c'est le nouveau club, nouveau système, défense à 3. Donc il y a des vrailles centrales, lui joue à gauche, Skriniar à droite. Donc peut-être doit s'habituer, mais. Godin, c'est celui qui fait la passe décisive. Donc, presque mieux devant que derrière.
Ok, Simone, merci. C'est l'Inter, hein, c'est un match d'Europa League, ça. Inter, Slavia Prague, mardi à 18h55.
Calme.
Allez, bonne soirée.
Europa League, tu le dis à d'autres choses.
Ouais, d'accord.
Ok,
Simone. Ciao, Simone. Bonsoir à toi, la bise à Gonzalo, si tu le vois depuis ta fenêtre et ton balcon.
Au resto.
On va dans un instant avec Paulo Breitner, Julien Laurence, la défaite de City cet après-midi face à Norwich. Le sondage est encore ouvert. Qui couche qui? Évidemment, il y a une excellente. Je vois Zabi dit, je vois déjà Jonathan crier Marinette. C'est un Rocky à la fin du combat. C'est très très beau.
Oui, c'est vrai.
Sur l'hashtag RMC. À tout de suite pour l'after avec Paulo Breitner et Julien Laurence.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, on est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, c'est l'after comme tous les soirs, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Bien sûr, je vous rappelle ce sondage sur le compte Twitter de l'After Foot. Il y a un duel qui a été lancé par Jonathan à Ludo, à moins que ce soit l'inverse.
C'est plutôt l'inverse.
Sur un combat boxe anglaise en, on dira pas 12 rounds, les gars.
10
Non, 3 rounds suffisent, non?
Non, allez, en 6.
Allez, 6 rounds. Qui couche qui? Le Polak, comme il se le définit lui-même, Ludovic Obraniak, ou le MMiste, je sais pas comment comment on appelle ça.
Mais moi, j'ai jamais.
Jonathan Macardy.
C'est pas moi qui lançais le défi.
Le 800 votes.
Facile.
Le bluffiste. Déjà 800 votes, vous votez. Hein. 800 votes en l'espace de 30 minutes déjà. Les résultats à la fin, vos commentaires également.
J'ai un peu honte. J'aurais même un peu honte d'être sur le ring avec Ludo parce que ça serait trop déséquilibré.
Tu sais, Jonathan, là, il y a une vidéo qui est tournée sur Twitter là, entre un policier qui se bat. Jonathan, c'est le policier.
Si tu veux.
Voilà, c'est lui.
J'ose espérer que son passé de sportif Ludo de haut niveau lui permette d'avoir le dessus, même si j'avoue que Jonathan a une grosse condition physique. Sérieux, c'est serré, mort de rire. Julien Laurence et Paulo Breitner sont avec nous ce soir. Salut, messieurs.
Salut à tous. Nicolas.
Un avis.
Salut, les gars.
Qui couche qui, rapidement? Est-ce que Ludo couche Jonathan? Julien?
Juju, toi-même, tu sais, Juju.
Je sais, Ludo. Moi, je suis pauvre. Moi, je mettrais tout mon argent sur le dos.
Tout est sterling.
Bah,
tout
bien,
est...
Quoi, mon pote, hein.
Oui, j'aime bien les polacs. Ouais.
Merci. Ouais. Très bien. Parfait, hein, partout. On commence avec toi, Julien, parce que sensation en Angleterre, en Premier League cet après-midi, la défaite de Manchester City. 3-2 sur la pelouse du 19e avant cette journée de championnat. Norwich. Les buts, McLean, Cantwell et Pookie qui a marqué la 50e. Agüero et Hernandez pour City. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien?
Le choc, effectivement, un gros choc de la journée, gros choc de cette première ligue pour l'instant, depuis le début de la saison, 5e journée. La saison dernière, on avait dû attendre le mois de décembre, la 16e journée, pour voir la première défaite de Manchester City. C'était à Chelsea, à l'époque, le Chelsea de Mauricio Sarri. Cette fois, au bout de la 5e journée, déjà un revers, et un revers qui se discute à peine, même en plus, parce que certes, ils ont eu beaucoup de ballons, ils se sont créés des occasions, ils ont touché... ils auraient pu marquer sûrement plus de buts, ils ont touché le poteau, Manchester City, mais quand tu regardes le match quand même, le plan de jeu de Norwich a fonctionné à merveille, parfaitement fonctionné dans la façon dont ils ont défendu en nombre, beaucoup derrière le ballon, mais aussi en réduisant énormément les espaces pour Manchester City, à la manière dont ils ont été efficaces avec le ballon en contre-attaque, notamment sur un coup de pied arrêté, c'est quelque chose qu'ils avaient travaillé à l'entraînement, comme ils l'ont expliqué après le match, où ils avaient vu notamment les défauts de la défense en zone sur coup de pied arrêté de Manchester City et sur le but d'ailleurs, Rodri notamment, puisque c'est lui qui est fautif, est complètement battu par McLean. Et puis après, bien sûr, il y a le pressing sur le troisième but avec l'énorme erreur de Tamendi. Mais si tu veux, cette victoire-là, Norwich, ils sont allés la chercher en étudiant parfaitement le jeu de City et en exploitant leurs erreurs.
Pourtant, il y avait l'équipe en face, hein, la composition de City, on peut la raconter. Bon, Ederson dans le but, évidemment, Zinchenko, Tamendi, Stones, Walker, Hernandez, Gundogan, Silva, Sterling, Agüero et Bernardo Silva.
C'est le couac de l'année, c'est-à-dire que chaque année, City fait un ou deux couacs dans la saison.
Je crois que c'est un accident.
Ça leur arrive, ils ont un petit accident de parcours comme dans la saison, ce qui peut logiquement arriver à
avant un match de Ligue des Champions, surtout
à toute équipe qui domine et qui est aussi performante depuis un long moment maintenant. C'est chaque année pareil, chaque année City prend, va se déplace à un moment ou à un autre, ouais, chez une équipe censée être plus petite et il se fait tabasser là-bas. Mais je pense que cette défaite n'aura aucun impact sur la domination de cette équipe avec Liverpool
pour l'instant
cette
et saison. Liverpool plus 5 points déjà, hein, après 3
journées. Non, ce juin, ouais, ça arrive au moins une ou deux fois à City chaque année de se faire tabasser par un petit comme ça.
Ouais, à Newcastle la saison dernière, à domicile contre Crystal Palace aussi. C'est vrai que ça leur arrive parfois, ça arrive souvent. D'ailleurs, c'est à chaque fois le même scénario. Là où ils ont énormément le ballon, ils se créent plein d'occasions, ils sont pas assez efficaces. Et en face, comme aujourd'hui, hein, 3 tirs cadrés pour Norwich, 3 buts. Ils auraient pas pu être plus efficaces ce qu'ils n'ont été. Ouais. Et à chaque fois, il faut que tu fasses un match parfait de façon à ce niveau-là pour les battre. Mais c'est vrai que ça leur arrive. Malheureusement pour eux, de temps en temps.
Ouais. Et Julien, quel est l'objectif relatif à la Ligue des Champions pour City cette année?
Alors Guardiola, il a pas vraiment été clair sur les objectifs cette saison, parce que nous, enfin, quand je dis nous, c'est les journalistes ici en Angleterre, soit anglais ou étrangers, on sait très bien que le rêve absolu de ce club et de Guardiola lui-même, hein, c'est de remporter la Ligue des Champions, d'être le premier pour Guardiola à amener la Ligue des Champions à Manchester City. Guardiola, lui, au début de saison, a plutôt parlé sur le triplé, qui serait un triplé historique, gagner 3 fois la première ligue d'affilée. Seulement Sir Alex Ferguson l'a fait avec Manchester United, il l'a fait 2 fois, mais c'est très très rare de réussir déjà à conserver ton titre, comme ils l'ont fait la saison dernière, et encore plus à le gagner une troisième fois. C'est ce que Guardiola a plutôt souligné en début de saison, mais tout le monde sait qu'en fait, il rêve, comme le club et comme les propriétaires d'Abu Dhabi, d'aller chercher cette Ligue des Champions.
Voilà pour la défaite de City qui se déplacera sur le terrain du Shakhtar Donetsk mercredi soir à 21h sur RMC Sport, bien sûr. Tiens, un mot rapide sur Tammy Abraham. 3 buts avec Chelsea, la victoire des Blues. Il en a 7 C'est un record à Chelsea, Julien.
Ouais, c'est il est en matchs. Feu en plus.
5 matchs.
Exactement, parce qu'il enchaîne. Comme tu dis, c'est pas simplement que là il a marqué 3 buts avec un peu de réussite, c'est qu'il enchaîne sur les 3 derniers matchs, il est très fort. Et c'est ce dont on avait parlé pendant l'été, quand on n'était pas sûr qui allait succéder à Mauricio Sarri. Chelsea avait briefé tout le monde en disant nous on veut quelqu'un qui puisse faire jouer les jeunes, qui puisse faire évoluer nos jeunes, progresser nos jeunes joueurs, parce qu'on a un très bon centre de formation mais qu'on a finalement très peu utilisé ces dernières années. Et en plus on peut pas recruter, donc il va nous falloir un entraîneur, peu importe qui ce soit, mais qui va être capable de donner de donner du temps de jeu et d'apporter cette progression à nos jeunes joueurs. Et ben Lampard, pour l'instant en tout cas, hein, c'est encore très tôt dans la saison, mais pour l'instant semble être celui qui est capable de faire ça. On l'a vu avec Mason Mount par exemple,
l'ordinateur
de jeu, qui a marqué aussi, qui a joué avec l'équipe d'Angleterre cette semaine pour ses premiers pas avec les Anglais, et puis bien sûr Abraham qui a marqué beaucoup la saison dernière en Championship, la saison d'avant en Championship aussi, la deuxième division, mais dont tout le monde se demandait s'il pouvait vraiment franchir le pas en Première Ligue et être aussi fort en Première Ligue. Il est en train de le montrer en ce moment. Et n'oublions pas aussi que sur les 5 buts donc d'aujourd'hui, il y a celui pour Mason Mount, il y a les 3 d'Abraham et le 5e, c'est le jeune Fikayo Tomori, qui est un défenseur central formé aussi lui à Chelsea, qui avait été prêté au Derby County de Lampard la saison dernière. Donc les 5 buts d'aujourd'hui de Chelsea ont été marqués par 5 joueurs issus de leur centre de formation.
Voilà pour Chelsea, évidemment, qui recevra Valence, qui en a pris une belle ce soir au Barça, mardi soir à 21h sur RMC Sport, évidemment. Vous savez comment il s'appelle, le petit frère de Tammy Abraham?
Non.
Timmy Abraham.
Ok.
Ouais, c'est Tammy et Timmy. C'est vrai, c'est pas un jeu de mots. Merci Julien.
Ciao Julien.
Merci les gars.
Excellent soir à toi. Polo.
Oui.
Beaucoup de choses évidemment. 2 énormes matchs aujourd'hui en Bundesliga. On va démarrer par RB Leipzig, Bayern Munich. Un partout, Lewandowski pour le Bayern, Forsberg pour RB Leipzig. On parle de 2 équipes évidemment qui vont jouer avec des champions Leipzig dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Match, vas-y.
Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, c'était presque 1 million pour Leipzig en première mi-temps, parce qu'ils ont strictement pas vu le ballon. D'ailleurs, bon, Thomas Müller était titulaire à la place de Coutinho, évidemment, qui avait joué avec le Brésil, qui a fait une superbe ouverture pour l'ouverture de Lewandowski, qui est en feu très sérieusement. Ce qui est par contre très intéressant, c'est que Nagelsmann avait repris son schéma dans une défense à 3. Il a changé à la mi-temps, il est revenu dans une défense à 4, et ça a beaucoup mieux fonctionné, puisqu'ils ont poussé sur le Bayern en deuxième mi-temps. Ce qui est intéressant, ce que j'ai oublié de dire par contre, c'est que durant les arrêts de jeu, pardon, de la première mi-temps, Lucas Hernandez fait une faute à Poulsen, mais alors vraiment qui ne sert pas à grand chose, pénalty qui permet l'égalisation. Mais sinon, si vous voulez, quand vous regardez la deuxième mi-temps, vous voyez que Leipzig est finalement pas si loin que ça que le Bayern Munich. Et j'ai envie de dire que ce 1-1 fait évidemment les affaires, j'ai envie de dire, du championnat, parce que les équipes sont très serrées en haut de classement, même s'il n'y a que 4 journées. Mais surtout qu'on a le sentiment que Leipzig s'est rapproché du Bayern Munich très sérieusement. Et je pense notamment à la déculottée qu'ils avaient prise l'année dernière en finale de Coupe d'Allemagne 3-0, mais par contre ils n'ont pas dépassé le Bayern Munich, c'est-à-dire que tu sens quand même que le Bayern, le vieux long, il est encore là. Et t'as une équipe très jeune à Leipzig, rappelons-le, avec l'équipe la plus jeune de Bundesliga, avec l'entraîneur le plus jeune de Bundesliga. Donc tout ça fait que c'est très très intéressant pour la suite du championnat. Leipzig encore une fois s'est rapproché. Quand ça joue à Leipzig, c'est assez impressionnant, mais le Bayern quand même pas mal, comme un assez intéressant Lucas Hernandez qui était poussé sur le côté gauche en tant que latéral, puisque quelques minutes avant la rencontre, David Alaba s'est blessé, donc on a fait rentrer Jérôme Boateng en défense centrale. Donc commande très intéressant. Tolisso est rentré. Je crois que il y a eu 7 Français qui ont joué au Red Bull Arena. Je crois que c'est un record en Bundesliga, à vérifier, mais je crois que c'est un record. Donc voilà.
Le Borussia, ouais. 4-0 face au Bayer Leverkusen.
C'est assez intéressant. Vas-y. Parce que en fait, lorsque tu regardes toutes les statistiques du match, elles sont tous pour Leverkusen. Donc pour les adeptes des statistiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est impressionnant au Borussia Dortmund, c'est cette efficacité qu'ils ont devant le but, et notamment le trio offensif. Évidemment l'anglais Sancho, Marco Reus, c'est pas quoi le casser.
Et Sancho déjà 4 passes décisives cette saison, lui qui a fini à 17 la saison dernière, le gamin là.
Et oui, et ben en fait, il en est à 27 en 50 matchs de Bundesliga.
C'est énorme,
c'est assez impressionnant.
C'est Ludo Bragnac de la Bundes.
Et au Werder de Bremen, je crois pas avoir laissé
autant de stats.
Doublé de Reus, but de Rafael Guerreiro également, et puis Pablo Alcácer, le Borussia. Ce sera une grosse affiche à Polo en Ligue des Champions. Mardi, Borussia-Barça.
Je crois qu'en fait, on s'en fiche du résultat. Je suis par contre persuadé qu'on va s'éclater sur le terrain. Ça va vraiment jouer. J'avais commencé à regarder un petit peu le Barça ce soir. Oui. Ça va très vite devant. C'est aussi deux équipes qui explosent très vite, ne l'oublions pas.
Tu penses que le Barça est capable de renverser le Barça? Enfin, renverser le Barça.
À domicile, j'en suis même intimement persuadé, ouais. Le problème, c'est que le Borussia Dortmund a encore, ça flotte un peu défensivement. Si tu veux, c'est une équipe qui est tellement joueuse, voire trop joueuse, qu'il y a des moments, il y a un déséquilibre assez flagrant entre l'attaque et la défense. D'ailleurs, Lucien Favre n'a pas exactement encore trouvé son véritable numéro 6, si on prend de la Ney qui est plus un milieu relayeur.
C'est Witzel.
Ou si on joue Weigl, mais Weigl il jouait pas aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pour le reposer, etc. Et puis il y a le quatrième joueur offensif. Est-ce qu'on choisit Brandt ou Thorgan Hazard? Ça va être un petit peu compliqué, mais honnêtement, quel que soit le résultat de cette semaine en Ligue des Champions, je crois qu'on va s'éclater.
Et Polo, Mario Götze est plus dans les plans.
Il est sur le banc.
Très court, messieurs, on va devoir arrêter.
Alors c'est trop court.
Vas-y. En une phrase.
Alors Mario Götze adoré par Lucien Favre, mais il sait pas quand est-ce qu'il peut le faire jouer.
Et voilà, c'est très clair comme ça. Merci Polo.
Ciao.
On te revoit toute la semaine évidemment avec la Ligue des Champions, le retour sur RMC Sport, tous les matchs, les trois clubs français. Ludo, merci. Jonathan aussi, résultat du sondage rapidement quand même. Qui couche qui s'impose? 55% Team McCarthy, 45% Team O'Braniac. 800 votes quand même en l'espace d'une heure. Il y a du succès, on le fera ça. On va laisser deux mois Ludo pour se préparer, pour être fit, et on fera ça en six rounds sur la Ligue. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et technique également. Bonne soirée sur RMC Sport News et à la radio sur RMC.
L'After Foot.